Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarks secondes.
Bonjour et bienvenue au 57e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilat et à mes côtés, Marie-Louise Gariepy.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un invité, il est réalisateur et chargé de cours en cinéma à l'Université de Montréal, Marc Joly-Corcoran. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Bienvenue avec nous.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur iTunes où vous pouvez en profiter pour nous laisser un petit 5 étoiles si vous aimez ça. C'est toujours très apprécié.
Seulement si vous aimez ça, les autres qui n'aiment pas ça, vous ne dites rien.
Et on est aussi sur RZO Web, sur Balado Québec, sur Pod Québec.
On sait que je parle trop. Ouais, on l'a déjà dit ça, oui.
Fait qu'arrête de me couper.
Non, mais c'est parce que je veux valider notre ami qui avait dit que je parlais trop.
Bref, on est un peu partout, donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks@gmail.com. Aujourd'hui, on y arrive enfin, depuis le temps qu'on en parle. Je ne sais pas si on en parle depuis longtemps, mais en tout cas... On y arrive.
On en parle beaucoup.
Ouais, on parle du film culte The Matrix.
Yeah!
Des sœurs Wachowski, ouais, sorti en 1999. Oui, qui sont sœurs maintenant, qui ne l'étaient pas à l'époque de Matrix. Avant ça, est-ce que tu as des petites plugs à nous annoncer? Parce que moi, j'en ai pas aujourd'hui. Rien de
super. Moi, je me force toujours pour faire des plugs, mais là, je me sens mal parce que c'est un petit peu far-fetch. J'essaie de me rendre intéressante quand toi, tu as tes plugs. Mais bon, je voulais juste vous parler, en fait, d'un podcast qui s'appelle Les chemins de la philosophie. En fait, c'est une émission de radio sur France Culture qui s'adonne à être le plus grand podcast de France Culture, le plus downloadé, le plus populaire. C'est super bon, en fait, comme podcast. Ça parle de philosophie. Et je trouvais qu'avec un film comme The Matrix, présenter le podcast Les chemins de la philosophie était intéressant. Et pourquoi j'en parle, c'est qu'ils parlent beaucoup de cinéma. Ils ont beaucoup, beaucoup de rétrospectives de cinéma. Récemment, ils ont fait des épisodes sur Cronenberg, par exemple. Ils ont parlé de Crash, ils ont parlé de... bon, enfin, plusieurs films de Cronenberg. Et en 2018, début, donc si vous allez dans la liste de tous les podcasts, ils ont 4 épisodes qui commencent le 1er janvier 2018 avec la tétralogie.
Tétralogie
de Alien 4. Ouais. Ah, c'est ça.
Enfin, la quadrilogie.
Non, ça, on dit pas
non, tétralogie.
On dit, ouais, trilogie, tétralogie, quelque chose.
À
chercher sur Wikipédia, mais ce n'est pas une quadrilogie, c'est pas ça, c'est un nom. Ouais, bon, en tout cas, avec les 4 Aliens, un après l'autre, ils ont 4 épisodes, puis c'est franchement très, très bon parce que c'est des gens qui l'analysent un peu sur le point de vue philosophique, analyse du cinéma, etc.
C'est bon, ça.
Alors, ça fait plaisir d'avoir un truc en français. On parle souvent de trucs en anglais. Moi, ça m'adonne que tous mes podcasts sont en anglais, sauf lui, quelques podcasts québécois que je suis, donc je suis bien contente de...
Ça doit faire, je sais pas combien de décennies que j'ai pas écouté France Culture.
Ouais, je sais, mais il est vraiment bien, cette émission-là, puis c'est super drôle, parce qu'en fait, la femme qui anime, j'ai vraiment énormément de respect pour elle, j'aimerais la voir, puis la prendre dans mes bras, parce que vous savez comment, sans vouloir blesser personne, mais certaines fois, les hommes français sont un petit peu cavaliers avec les femmes, hein, mais alors elle les retourne, là, vraiment, là, tu sais, elle se laisse pas parler, puis elle se laisse pas écraser, elle a vraiment du front, puis je trouve ça toujours magnifique de voir le petit monsieur philosophe avec son petit accent universitaire français qui fait des commentaires légèrement désobligeants, puis elle qui se laisse vraiment pas écraser, non, c'est vraiment amusant, là, très, très bon, puis il y a des épisodes super bons, très touchant sur d'autres sujets. Mais bon, j'ai pensé que pour nos amis qui aiment la science-fiction, ben, ça pourrait être une bonne façon de découvrir ce podcast-là et du même coup un peu
rappelle le titre, comment t'as dit?
Les chemins de la philosophie.
Les chemins de la philosophie.
Ouais, okay. Donc, c'est facile à trouver. Vous faites chemin de la philosophie. Puis si vous ajoutez Alien, ben, vous allez avoir apparaître les quatre épisodes un après l'autre. En fait, c'est un, bon, trois, c'est quatre, puis deux qui apparaissent.
Voilà. Un plus que je vais rajouter à ma longue liste de podcasts que j'ai pas le temps d'écouter.
Pour ceux qui écoutaient pas trop de podcasts. Et moi j'ai un principe pour les podcasts. Quand t'en essaies un autre, alors tu l'essaies, t'écoutes un épisode. S'il te parle, tu l'ajoutes puis tu dois effacer celui que t'écoutes le moins.
C'est vrai.
Tu dois avoir comme ton nombre limite de podcasts. Ouais. Je sais pas si Marc t'écoute les podcasts, mais nous on est accro, moi puis Nick.
Non, j'écoute pas de podcasts.
Bon, on va peut-être te convertir.
On va peut-être
convertir. En plus, je dis, c'est populaire au Québec. Il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de bons podcasts.
Ouais. Ben, ça m'a surpris parce que récemment j'ai participé à un podcast sur pour parler de mon documentaire. Là. Je veux pas non plus faire de la plug.
Mais nous en parler ton documentaire.
On va te demander de nous plugger au moins tantôt.
Mais par rapport à cette histoire-là, c'est ça, c'est que j'ai participé au podcast Star Wars en direct, puis... J'enseigne à l'Université de Montréal, j'arrive dans mon cours au début, et puis j'ai un étudiant dans mon deuxième groupe, du groupe du jeudi, il me dit « Oui, bonjour, je vous ai entendu le podcast à Star Wars. » Ah ouais? Là, je le vois, ça. Puis je me suis rendu compte avec le temps, des fois, j'ai des neurones, des fois, qui se touchent dans mes cours. Des fois, les étudiants, ils savent un peu. Des fois, j'étais un petit peu bizarre, crackpot. Puis à un moment donné, comme c'était à la fin d'un cours, puis je vois l'étudiant, ce même étudiant-là qui m'avait dit, tu sais, « Ah, je vous ai entendu. »« Ah ouais, parfait, ah, génial, t'as aimé ça. » Oui, mais il dira pas non, évidemment. Puis là, à un moment donné, trois, quatre cours plus tard, je le vois avec un espèce de lainage avec des faces de Darth Vader dessus. Fait que là, je donne mon cours, puis tout, je parle, je sais pas trop, je suis dans l'école russe, tu sais, puis là, je dis, wow, crible, j'arrête, vraiment, je fais une vraie parenthèse, t'as un gilet de Darth Vader, là, je dis, oh my God, comme ça, qu'est-ce que c'est, c'est un freak, là. Alors, faut être freak de Darth Vader, de Star Wars,
faire un documentaire là-dessus. De Star Wars pour remarquer ça.
Donc, vas-y, alors, parle-nous-en de ton documentaire.
Oui, on fait ça, donc, de tout.
Oui, bien sûr.
On est dans les plugs, on est dans les, justement, c'est la section discrétion, les discrétions, c'est tout le long de l'épisode, parce que ce qu'on t'a pas dit, Marc, qui est la première fois à notre micro, c'est que nous, on parle d'un film, mais souvent, on va parler de plein d'autres choses qui nous font penser au film et tout. Oh, mais j'étais très fière quand même quand on a fait l'épisode sur Star Trek, Discovery, on a parlé que de Star Trek. On a parlé de tous les Star Trek qui a eu lieu, de tout, mais on a parlé que de Star Trek dans les digressions, il n'y avait rien d'autre que des Star Trek. Donc,
vous avez été disciplinés.
On est disciplinés.
Star Trek, c'est vaste.
Avant
de sortir
tellement...
de Star Trek, t'as du chemin.
Oui, exactement. Mais donc, c'est ça, tu fais quelque chose sur rien de moins que...
Star Wars, les fans de Star Wars, c'est le moment de la shameless plug. En fait, ça fait depuis, c'est drôle parce que là, je regarde ça les années, puis là, ça fait depuis 2015... En fait, pour faire un petit résumé rapidement, j'ai fait ma j'ai une maîtrise, j'ai fait ma maîtrise sur Matrix, donc ça fait un moment. Mais
et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui.
C'est ça, j'ai fait mon mémoire là-dessus, donc je ne me rappelle plus dans ce programme. Mais puis par la suite, je me suis dit qu'est-ce que je fais dans la vie. T'sais? Et puis là, j'ai décidé ok, let's go, je fais un doctorat, mais je ne vais pas faire un doctorat sur quelque chose qui me fait suer. Vraiment, je vais le faire sur quelque chose qui me parle. Et puis je me suis dit tiens, je vais le faire sur Star Wars. Sauf que j'ai comme développé un concept à travers tout ça. Là. Bref, j'épargne les détails, mais parce que, tu sais, quand on sait bien qu'on fait un doctorat, il faut apporter de nouveau à la connaissance
Bien sûr.
Tout ça, faire la recherche, etc. Fait que là, je me suis amusé dans ce sens-là à créer de la théorie pour essayer de comprendre comment les fans réagissaient face à un objet culturel. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens avec le comportement religieux, le comportement de l'homo religiosus, ce qu'on appelle en bon latin. Là. C'est-à-dire, on a un comportement inné en soi qui est pas religieux dans le sens institutionnel, là, parce qu'il y a toujours des...
Ben, comme spirituel, plutôt.
Oui, c'est ça. Je fais une différence entre religiosité, puis certains aussi dans la culture des fans qui utilisent cet aspect-là un peu plus anthropologique. Religiosité et religion. La religion, c'est l'institution. La religiosité, c'est le sentiment du sacré, de l'autre,
du mystère,
etc. Ouais. Puis on l'a tous, cette expérience-là, on la vit tous. T'sais. Donc, je m'intéresse à ça par rapport aux fans aussi. T'sais. Donc, comment est-ce que ces fans-là retournent dans des conventions, retournent et gardent en vie cette passion-là
pour Star Wars. C'est cet aspect-là de l'humanité qui fait en sorte que ça nourrit un peu cette culture-là.
C'est une approche très, je dirais, anthropo-religiologique. Donc, de la chose. Pas théologique. Non, j'ai pas étudié en théologie, en fait. C'est ça, parce que c'est vrai, ça, c'est un autre truc. J'ai étudié en cinéma, mais j'ai fait c'était d'études en sciences et religions.
Okay.
Un certificat en sciences et religions, et non pas de théologie. Théologie,
okay,
c'est l'étude du Dieu chrétien, théologie, alors que sciences et religions, c'est l'analyse du phénomène religieux de façon plus générale et du sacré aussi, de l'émotion du sacré qui est maintenant désincarnée des institutions de plus en plus.
Ça s'approche.
Ce qui fait qu'on la retrouve, cette émotion-là, dans la culture populaire énormément, surtout en Occident.
Bien sûr. On voit ce que ça crée, justement. Là, tout le mouvement geek, c'est un peu axé sur ce...
Oui, ce qu'on appelle le déplacement du sacré, là, dans le jargon. Là. Donc, il y a le déplacement de ce sacré-là. Puis, moi, ça me fascine. Les religions m'ont toujours fasciné depuis super longtemps, même quand j'étais très jeune. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Mais pas parce que je crois en rien. Mais mon premier documentaire, c'était un truc sur le pèlerinage en Inde aussi. Donc, j'ai fait un truc sur la religion, le pèlerinage en Inde. Puis là, ce documentaire-là, sur Star Wars, c'est un petit peu comme une espèce de...
C'est une synthèse de tout ce qui t'intéresse.
C'est une espèce de suite 20 ans plus tard. Oui, 20 ans. puis de tout ce qui m'intéresse, c'est vrai. C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais. Mais c'est super intéressant. Mais moi je te suis parce que j'ai toujours trouvé les religions aussi assez fascinantes dans toutes les... d'essayer de comprendre pourquoi les gens croient, puisque le sens que ça a, puis les rituels, moi, les rituels me parlent beaucoup, ça me fascine beaucoup comment les gens ont des rituels.
Puis les rituels, c'est de la mise en scène, tu sais, c'est artistique, les rituels.
Puis c'est inné aussi, c'est pas quelque chose, toutes les sociétés ont développé des rituels, là, c'est quelque chose de... Quand je dis inné, c'est que ça fait partie d'être un être
humain. Oui, mais c'est toujours le sentiment de vouloir maîtriser aussi quelque chose, comme un enfant qui va se créer des petits moments pour maîtriser des émotions qu'il connaît pour la première fois, tu sais, qu'il apprend à domestiquer des émotions. T'sais. Donc, l'être humain, depuis le début des temps, pour domestiquer ces émotions-là face à l'inconnu, c'est créer des rituels. Mais avant que les rituels arrivent, il y a les mythes. Hein, du tout comme des liens avec Matrix quand même ici. On va le voir tantôt. Mais on va en parler. Mais c'est ça. Les mythes, c'est des récits fondateurs. Puis après ça, on les revit par des rituels. C'est super intéressant. Puis les fans...
Les fans entretiennent ça, en fait. Ouais. C'est les fidèles c'est de ça. La religion.
Puis, les cosplayers entretiennent des personnages qui les fascinent, puis ils les gardent en vie. De façon périodique. Hein? Les Comic-Con reviennent périodiquement chaque année.
Est-ce que je peux se poser une question difficile? Quand est-ce qu'on va pouvoir le voir?
En fait, on a prévu, on veut le sortir en 2020. Donc là, comme je disais, ça fait depuis 2015 que je travaille mes personnages. En 2016, j'ai commencé à tourner une petite démo. Par la suite, j'ai vraiment commencé à tourner en 2017, de façon, tu sais, un peu sporadique, là. Mais bon, j'ai quatre sujets. J'ai un couple du 4-5-0. J'ai un mec qui habite barbu, tatoué sleeve. Il était carré. non, mais c'est vrai, il est vraiment...
C'est-tu que des tatouages de Star Wars?
Il y a des tatouages de Star Wars sur ses doigts, comme ça. des sables laser sur le côté de ses doigts, tout ça. J'ai filmé à un moment donné, il me les a montré. Tout ça, c'est vraiment hallucinant. Puis j'ai aussi Steve Gourlouis, un quatrième sujet, qui s'est ajouté récemment, qui est Steve Gourlouis, dont Huron, de Wendake, qui a une boutique entièrement dédiée à Star Wars, donc de jouets à Wendake.
Wow.
Donc j'ai commencé à... Puis qui, lui, ça fait bâtir une maison en ce moment avec son sol entièrement consacré à Star Wars.
C'est un beau sujet, je suis curieuse de savoir. Comment lui se définit dans...
Oui, puis écoute, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui veut dire il est groundé, là, le mec, là, tu sais, je veux dire, il y a une famille. Comment est-ce qu'il entretient avec sa tradition orale, tu sais, de Huron, parce qu'il est très proche de ses traditions. Il y a une troupe de danse traditionnelle, et puis il fait le tour. Il y a quand même une troupe de danse qui est en activité, là, qui fait beaucoup de représentations selon les événements. Fait que je suis curieux de voir, moi, comment est-ce qu'il va... C'est quoi la passation de cette passion-là vers ses enfants, ses deux enfants, qu'il y en a un qui a 18 ans, une qui a 16 ans, puis qui trippe, ses enfants trippent Star Wars aussi, tu sais.
Mais Marc, va falloir qu'on te réinvite absolument pour parler, quand on va faire Star Wars, pour parler de ton film et peut-être parler de Star Wars.
Oui, mais là, vous n'avez pas fait d'émission sur Star Wars?
Pas encore.
Non, mais on garde les meilleurs, on se garde des meilleurs.
Il y en a des évidents qu'on s'est dit on va parler.
Mais oui, c'est ça, parce que si on les fait tous...
En plus, avec les ressorties, avec les nouveaux épisodes, etc., tout le monde en parle beaucoup, fait qu'on s'est dit, bon, on va se garder ça pour un moment.
C'est ça, exactement, il y a eu une grosse fois qu'on en parlait beaucoup, puis tu sais, nous, on a fait des grosses franchises. On a fait Star Trek, on a fait Terminator, on a fait Alien, on a fait Blade Runner. Mais on essaie de se garder du jus parce que si on fait toutes les grosses franchises dès le départ, on n'aura plus de fun dans le processus.
Donc on y va,
c'est ça. Puis Star Wars, c'est comme un peu notre chouchou d'une certaine façon, donc c'est vraiment pas parce qu'on l'aime pas, on se le garde.
Vous gardez
là, comme
la cerise pour la fin.
C'est ça, exactement.
Ça fait partie des obligés. Là. C'est obligé d'en parler à un moment, là, c'est juste qu'on attend.
C'est ça, mais ça serait peut-être probablement la seule grosse franchise qu'on n'a pas attaquée encore, parce qu'on n'a pas fait le fait tout le reste. Dans les gros évidents, je pense, Alien, Terminator, Star Trek. Mais encore Star Trek, on l'a pris par la bande, on n'a pas fait l'original, on n'a pas fait les gros canons, là. On n'a pas parlé de Next Gen, on a, en tout cas.
Non. Je suis embêté de parler de franchise quand on parle de Matrix, mais en tout cas.
Matrix, c'est
intéressant, je pense qu'on va toucher à ça, mais.
Mais parlons-en, Matrix, go. Vas-y, ton résumé. Vas-y.
Alors, je balance mon petit résumé pour se mettre dans le bain. Résumé qui n'est pas de moi, que j'ai honteusement piqué sur Internet.
Comme d'habitude.
Plagiat!
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyberespace. À cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées. Qu'est-ce que la matrice ? Parce que oui, en français, ça s'appelle la matrice. Enfin, moi, au Québec. Parce qu'en France, en Suisse, partout en Europe, c'était juste Matrix. C'est resté Matrix.
Et...
Bien.
Qu'est-ce que Matrix? Ça se dit bizarrement.
Ouais, en fait, ça, c'est... Moi,
qu'est-ce que la matrice?
Ouais, en tout cas, la matrice, ça ne s'appelait pas la matrice. Ouais.
En Europe, ça s'appelait pas la matrice. Mais moi, j'ai vu en anglais, mais oui, je me rappelle juste de Matrix.
Ouais, je l'ai vu en anglais aussi, c'est sûr.
À l'époque, j'étudiais à McGill, alors j'étais comme fou.
Il y a plein de titres français comme ça que moi, j'ai découvert en arrivant au Québec. Avant ça, je voyais...
sujet en soi.
Non, puis les Français sont très forts. Parfois, ils traduisent des titres anglais par d'autres titres anglais.
Magnifique. Ça, c'est
parce que ça fait cool d'avoir des titres anglais. C'est quand il y a des trucs d'hallucinants, là. T'sais. Enfin, bref. Ben, parlons un petit peu de ta première expérience de Matrix, là, si tu remontes.
Quand tu l'as vu la première fois,
c'est vraiment... En fait, je me rappelle moins de la première fois que je l'ai vu au cinéma que de l'impact que le film a eu par la suite, puis tranquillement, quand j'ai acheté mon premier lecteur DVD. Parce qu'il y a vraiment une synchronicité, en fait, quand ce film-là est arrivé, entre les technologies qui étaient disponibles à l'époque, tu sais, de consommation, de culture, là, et les films qui sortaient, dont La Matrice. Donc, oui, quand j'ai vu le film au cinéma, j'étais impressionné. Je suis sorti de là un peu marqué, et puis bon, j'en parle à ma blonde, puis bon, ça reste comme ça. Puis le film, on n'avait pas de lecteur Blu-ray, DVD. On n'avait pas de lecteur DVD encore, et puis là, à un moment donné, le film sort en DVD, et puis je m'achète un lecteur DVD pour La Matrice. Puis j'achète La Matrice. Je pouvais pas voir ce film-là en VHS. C'était clairement, je pouvais pas garder ce film-là sur un ruban analogique. Là.
Le Matrix, ça marchait pas. On était rendu au numérique.
Le Matrix, on était rendu au numérique. Puis il fallait que je regarde ça sur un DVD, sur une qualité vraiment, tu sais. Ça restait du standard.
Ça restait du. T'avais même pas en 16-9. Hein, t'étais en 4-3, puis probablement qu'il te l'avait arrangé pour que ça bouge.
Non, sur le DVD, c'était, t'avais le vrai format respecté des films. DVD, là, c'était le début des. Ça avait commencé avec le Laserdisc, là, où ils respectaient les formats. Mais après, avec l'arrivée du DVD.
Mais il y a une transition. Parce que, tu sais, je me rappelle ma mère, quand elle a acheté le DVD, c'était recadré. Il y avait format recadré ou.
T'avais le choix. Moi, j'étais le puriste. J'étais un peu puriste. Je te suis complètement.
Écoute-moi, c'est 2,35.
C'est 2,35 le Matrix? Non, moi, je l'ai vu en format IMAX.
Ouais, format IMAX, ouais. Mais c'est du 2,35 quand tu le regardes. C'est du 2,35.
C'est du 2,35?
Ouais, c'est ça. Puis, ah non, attends un peu, 2,35?
Non, je suis pas sûr.
C'est du 1,85 ou du 2,35?
Non, 1,85.
Là, j'ai un doute, mais...
Là, je m'en vais faire une petite recherche internet.
Non, parce que quand je l'ai regardé en Blu-ray hier, la partie que j'ai regardée, c'était du 2,35 sur ma télé. Ça prenait pas tout l'espace de l'écran.
Ouais.
Mais on parle de ça, puis en même temps, moi, j'étais un freak de ça à l'époque. Je me disais, non, moi, je veux que ce soit 2,35.
C'est 2,39, en fait, c'est écrit ici.
2,39?
Oh, wow, OK. Ouais, c'est le 2,40.
Mais c'est vrai que c'était du SD, c'est ça qui est drôle, parce que c'était pas ouais, même non, si c'est c'était, ça, c'était si pas... Regardé. VHS, c'était recadré, tu sais, tout ça. Mais
parce que c'est ton souvenir que t'avais de passer du VHS au DVD, puis le DVD avait comme quelque chose de tellement plus suave, même si t'avais la même qualité, excusez-moi l'expression.
Ben, c'était pas la même qualité,
Techniquement, un peu, t'étais quand même dans
On avait l'impression que c'était une meilleure qualité parce que c'était du 2.35, il y avait des barres en haut et en bas.
Ouais,
puis
c'est ça.
Mais il y avait une transition même en VHS, je me rappelle même, je parle à ma mère, en tout cas, bref, mais ma mère, même en DVD, après ça, avant ça, en VHS, elle avait acheté Titanic, puis Titanic, j'avais dit, achète-le en 2.35, c'est bien plus beau, toute l'image. Il y avait une télé, les autres, télé, puis tout, tu sais. Elle disait, oh non, on perd l'image. Mais non, tu perds pas l'image.
C'était encore l'époque des télés meubles, des monstres.
C'est ça. Donc, bref, c'était pas mal mes premiers souvenirs, puis je l'ai écouté tellement de fois, tu sais, parce que moi, j'ai toujours été un peu freak. Mon père, il y a un magasin de musique, puis de son pendant longtemps, puis il était vendeur de. Il est pianiste, il est musicien, en tout cas, d'âme, là. Mais il n'a pas fait ça dans la vie, là. Mais du côté de mon père, c'était le son, du côté de ma mère, c'était l'image. Fait que, tu sais, j'ai comme.
J'ai mélangé les deux,
puis je. Et puis.
Donc, t'avais l'habitude.
J'avais toujours d'avoir un cinéma maison. Moi, depuis le début, j'ai comme des petits haut-parleurs un peu partout. Je me traficotais quelque chose pour que ça fasse vraiment, tu sais, relativement
simple.
Puis pour que ça fasse un peu le cinéma. Puis donc, ça, j'avais ce plaisir-là, donc avec Matrix, puis plein d'autres films que je sélectionnais, qui me faisaient vivre une expérience sensorielle chez nous. Et puis.
Mais d'ailleurs, si je me trompe pas, Matrix, au niveau du son, il n'était pas aussi un peu innovateur. C'était pas un des premiers à avoir le système.
Garçon, je ne le sais pas. Je ne rappelle plus.
C'est DTS, Digital, DTS.
Non, mais ça, c'était déjà.
Le premier à avoir utilisé le DTS Sound System, c'est Jurassic Park en 1993.
Ah, ok, non, c'était pas.
Avec le gros CD.
J'imagine que Matrix innove surtout à cause de ce qui a innové dans l'image. Mais toi, Nick, quand tu t'en rappelles-tu la première fois que tu as vu The Matrix?
Je me rappelle déjà la première fois que j'ai vu la bande-annonce. Vous voyez ça sur Internet, mais c'était des tout petits fichiers vidéo, là, ridicules.
À l'époque,
ça
prenait une heure de télécharger une vidéo, genre.
Ouais, mais tu sais, c'était tout minuscule comme ça, mais j'étais avec des copains, je me rappelle, on écoutait ça, on regardait la bande-annonce, là, puis on hallucinait, on disait, c'est quoi ce truc avec la fin, whatisthematrix.com, tu sais. Puis on hallucinait parce qu'on comprenait pas ce que c'était, mais ça avait l'air débile, quoi. Tu sais, juste le... Je crois qu'ils avaient mis quelques images du début où tu vois Trinity, tu sais, qui saute, puis l'image qui ralentit, la caméra qui tourne autour, enfin, le bullet time, tu sais.
Le truc épique, là.
Mais je pense qu'ils n'ont pas montré le bullet time au début. Je pense qu'ils ont montré le truc quand elle saute les deux immeubles.
Ouais, entre les deux immeubles.
Le bullet time, c'est la surprise quand tu regardais le film.
Ouais, mais je pense qu'on voit... Je crois pas qu'ils montraient déjà le fameux shot de bullet time avec... Neo qui évite les balles, mais il me semble qu'il y avait le premier où elle saute comme ça.
En tout cas, moi, je sais que je l'ai pas vu en preview. Moi, je l'ai vu au cinéma, puis ça a fait comme...
En tout cas, bref. Je me rappelle que cette bande-annonce...
Comment on fait ça?
même de voir cette bande-annonce en basse qualité comme ça, on hallucinait.
Ça, c'est drôle pour la technique, en tout cas.
Tu l'as vu au cinéma après?
Je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu au cinéma. Et puis, j'ai halluciné complet. Enfin, j'ai adoré ce film. Mais je pense que c'est... effectivement après que j'ai comme compris des choses sur le moment j'ai vraiment apprécié l'image, le délire technique, les scènes d'action, enfin il y avait toutes ces choses qui faisaient que ça ressemblait à rien, tu sais. Et après par la suite j'ai commencé à le voir plus souvent comme toi finalement, à le voir plus souvent,
c'est après que tu réalisais que tu vivais à douter de la réalité. Au début tu voyais juste ça comme un film d'action, puis à un moment donné tu te réveillais à ma tête,
non mais c'est sûr que l'histoire me parlait,
dans le monde réel
en même temps l'histoire me parlait, mais je cherchais pas trop loin, si tu veux, mais évidemment quand tu commences à réfléchir à tout ça,
tu dors plus, tu cherches la faille,
tout en question,
tu cherches la faille,
je me rappelle,
réveillez-moi, enlevez-moi les plugs.
Je rencontrais plein de monde qui était là, mais ce film il est dément, ça a changé ma vie, mais il y avait du monde qui était complètement hystérique avec ce truc, quoi, c'était fou. Puis mais enfin voilà, donc
c'est vraiment ça, des écoutes multiples qui m'ont vraiment fait, puis j'étais dans mon buzz où je venais de faire mon documentaire en Inde, ça faisait pas longtemps, tu sais, puis je m'en allais au Pérou juste après pour un truc reportage machin, en tout cas bref, puis j'étais vraiment dans un buzz, le jeune là, qui apprend des choses, puis tout ça, puis le Neo à l'écran, tu sais, qui se découvre, tu sais, comme qui sent l'individuation, tu sais, puis il devient Neo, moi aussi ça me parlait un peu comme toi, je pense, dans ce sens-là. Peut-être par rapport à mon âge aussi, peut-être. mais aussi par rapport aux technologies, j'ai toujours été un peu techno-freak, là. J'ai toujours été toujours trippé sur les gadgets, là. Puis toi, c'est...
Moi, j'avais été voir ça toute seule. Je me rappelle d'aller voir ça toute seule, puis d'avoir comme espoir que ça soit mon film, mais c'était comme c'était comme un feeling quand je regardais le film de me dire « Wow, ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon film de science-fiction de même. » En 99, ça faisait quand même 6 ans après Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y avait eu entre... J'avais pas vu encore Dark City, je crois, dont on a parlé au dernier podcast.
Ah, je pense qu'on a parlé... Il est sorti après Matrix.
Il est sorti... Non, il est sorti avant Matrix.
Mais je pense qu'en Europe, il est sorti en même temps ou après.
Moi, je l'ai pas souligné.
Il y a eu une couple de films dans ces années-là aussi qui sont sortis comme Avalon en 2001 de Mamoru Oshii, qui a fait Ghost in the Shell en 2014.
Ghost in the Shell, je l'ai vu.
Ouais, Avalon, je l'ai jamais vu, mais ça, Avalon, j'ai voulu voir. Hein.
Puis il y avait The 13th Floor aussi.
Mais en tout cas, mon feeling de The Matrix, c'était comme genre ce film-là qui était un film. Pour moi, c'était un film. C'est un chef-d'œuvre tout de suite. C'était comme presque parfait au niveau, tu sais. Ça allait. J'ai comme tout de suite senti dans la catégorie des Alien, des Blade Runner, là, comme une espèce de film que tu regardes, que tu as envie de revoir, qui te donne une impression très forte. J'avais la bande de son aussi, la bande sonore. J'écoutais la musique là, comme pendant. Je me rappelle d'étudier, d'écouter la musique, d'être dans mes trucs. À l'époque, j'étais informaticienne. J'étudiais en informatique en plus, imagine. Donc, En 99, j'étais en train de faire ma maîtrise, commencer une maîtrise que j'ai pas finie en informatique. Donc, là-dedans. Ouais. Donc, c'était fou. En plus, ça foutait super bien avec ce que j'étudiais. Puis, ça marchait, là. Puis, c'était vraiment aussi le film de ce temps-là, de 99, là. Tu sais, c'était le film qu'on attendait pour 99 qui venait mettre une espèce de pied de nez dans l'idée. Tout le monde parlait du bug dans l'an 2000, puis ça venait de tannant. Puis, ça, c'était comme un pied de nez, genre, comme quelque chose de plus intéressant
c'est
avec la technologie.
C'est vraiment un moment clé, quoi.
Ah non, il y a un timing, là. C'est pour ça que ces films-là qui marquent l'histoire, en fait, arrivent à des moments clés. Je veux dire, on parle tous des autres films. On parle de Star Wars, après la guerre du Vietnam, les crises du pétrole, puis là, on arrive avec des héros qui, soudainement, on parle pas de Star Wars, puis Matrix, c'était Internet est arrivé en 94-95, tranquillement.
93,
écoute, Matrix est arrivé après ça, puis qui porte un regard critique sur justement...
C'était le film du moment, parce que, tu sais, genre, on peut dire que je pense à Neuerman, sûr, qui a parlé de l'idée de l'Internet en 80, là, tu sais, mais pour la population... En littérature, mais pour la population, pour le commun des mortels, tu sais, quand ils écoutaient The Matrix, ils comprenaient, parce que là, ils étaient commencés à s'intéresser à Internet, à avoir leur courriel, avoir l'idée d'être connectés, toute l'informatique était rendue, c'était plus juste un truc de quelques fous dans des.
Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est pourquoi celui-là? Parce que c'est quand même une époque où est-ce qu'il y a d'autres films qui sont arrivés en même temps, là, malheureusement, j'ai pas fait les devoirs, là, mais il y a d'autres films comme 13th Floor aussi, qui parle de réalité virtuelle.
Il y a celui de Cronenberg, justement, avec les jeux.
Bird Existence.
Existence, la même année, à peu près.
Cronenbergien.
C'est la même année, Existence, oui.
Dans les mêmes eaux, là, c'est pas longtemps.
Ah oui, 99, c'est la même année. Ouais. Donc, mais pourquoi
Existence,
celui-là a
Dark
marqué,
City. Ben, c'était 99, Existence. Dark City, je pense, c'était en 98.
C'était l'année passée.
On devrait le savoir parce qu'on l'a parlé la dernière fois.
Puis Matrix a utilisé des petits bouts de décor de Dark City au début.
Mais écoute, je pense qu'un des trucs avec
la scène
Matrix...
de Trinity, justement, où ils sautent sur les toits, c'est des décors de Dark City.
Oui, puis l'escalier aussi, je pense. L'escalier en...
Mais un des trucs de The Matrix, je pense qu'il y a aussi quelque chose de parfait au niveau de tous les éléments qu'ils ont mis ensemble, le cast. Tu sais, c'était pas un cast de... C'est Fishburne avec Keanu Reeves, c'était solide, là. T'sais, ils étaient déjà un peu connus, eux autres, donc ils ont comme amené quelque chose, il y avait un oomph. Ouais. Puis c'est un bon film d'action, là. Écoute, c'est parfait, là. T'sais, c'est le kung-fu, le petit côté un peu... T'sais, Tarantino, vous avez déjà donné le goût du kung-fu dans le côté populaire, t'sais, parce qu'avant Tarantino, le kung-fu, ça restait le truc des geeks et des jeunes et tout, mais là, tout le monde était comme initié.
Mais t'sais, c'est ça,
initié,
c'est que ça a rendu cool toute cette vague-là, t'sais, même d'arts martiaux, de films d'arts martiaux, puis de la culture asiatique aussi, ça l'a rendu accessible, mais en même temps, il y a d'autres films aussi qui... Ben, tu sais, Tarantino l'a fait, mais...
Tarantino était extrêmement populaire aussi.
Mais c'est un patchwork, Matrix, quand tu regardes ça, là. C'est un patchwork, mais je veux dire, il y a des patchworks qui fonctionnent mieux que d'autres, mais Tarantino, c'est un maître du patchwork, là. Mais Matrix, ça en est un patchwork.
Kill Bill, c'était en 2003, hein, c'était pas...
C'est
vraiment Matrix,
Matrix,
tu parlais de ça, mais je me suis dit Tarantino, c'est venu après.
On a eu la même pensée parce que j'étais en train de taper Kill Bill, puis là, j'allais dire, oh non, Kill Bill est en 2003. Donc, Matrix a été précurseur dans le... Ah, je savais pas, ça, c'était intéressant.
Non, mais c'est vraiment, je pense que...
C'est eux qui ont amené le kung-fu, puis le truc dans dans la, le parce que pour être franche, moi, j'étais pas une j'étais une fille déjà, ça aide pas là, j'écoutais pas des trucs de comme fou là, je faisais pas partie des gens qui connaissaient ça et tout. Donc pour moi, quand j'ai vu The Matrix, ça a été probablement mon premier film
que j'ai vu. J'avoue que ça a été le moment où j'ai découvert
Que j'avais probablement jamais vu ça du
Mais tu connaissais quand même le cinéma asiatique là ou pas?
Non. Ben oui, ben je veux dire, écoute, je suis une cinéphile très profonde, donc j'avais peut-être vu Rashomon, j'avais peut-être vu...
Ok, ouais,
J'avais probablement vu, déjà
Akira,
vu les sept samouraïs.
Harakiri.
Voyons, les sept samouraïs, comment je peux oublier? Non, c'est moi un de mes films préférés, genre, parce que je pensais qu'il y en avait tout 14. Et là, j'ai bu un petit peu trop de vin, déjà. Ah, pas bien. Mais les sept samouraïs, qui est un de mes films préférés, mais dans les sept samouraïs, c'est pas un truc de kung-fu, là. Kurosawa, c'est pas des films de kung-fu du tout. Donc non, j'étais pas initiée à ça. Ben,
non,
Crouching Tiger, on s'y perd, hein?
Hidden Dragon, Crouch Tiger, Hidden Dragon.
Moi, je m'amuse à vous regarder.
On est pas si pire que ça d'habitude.
C'était 2000, l'année d'après.
Ben, l'année d'après, ça aussi, c'était après. Donc vraiment, The Matrix, c'est probablement le film qui nous a fait comme...
Qui a comme amené cette culture asiatique.
Ils ont été chercher un chorégraphe aussi, un chorégraphe bien reconnu.
Là, c'est clair. Si Kill Bill puis Crouching Tiger, Hidden Dragon, c'est venu après The Matrix, je peux te garantir que mon premier film de Kung Fu officiel, c'est The Matrix.
Moi, la pile, puis ça, c'est la scène dans le donjon, ou pas dans le donjon, mais dans
le dojo.
Le dojo, pardon, ouais, merci, donjon. Le dojo.
Il était presque à une lettre
près. C'est toujours qu'il mélange les deux. Hein. Un dojo-donjon.
Moi, j'ai une bière aussi. Là, mais non, c'est correct, je ne prendrai pas de prendre de l'eau.
Mais ouais, c'est ça notre truc, c'est que ça devient de plus en plus créatif parce qu'on augmente la consommation d'alcool.
Ouais, c'est ça, tabarnouche. Mais écoute, là, moi, la scène du dojo avec la musique, puis après ça, tu sais, comment est-ce qu'il dit ça? Non, je l'ai vu hier, le moment, ce moment-là.
C'est la musique de Prodigy.
Don't think you are, know you are. Puis là, c'est comme tout, puis là, t'as un
moment. Ah oui, oui, non, tantôt, je l'écoutais, puis j'étais comme, il faut que je le dise. Don't think. Know you are. Don't think you are. Know you are. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est ça que je vais dire dans ma vie. Don't think you're a director. Know you're a director. Don't think you're a producer. Know you're a producer.
C'est ça qui est fou dans ce film. Je t'en prie, à ta santé. C'est ça qui est fou dans ce film. C'est l'intelligence. Tu sais, c'est pas juste des scènes d'action. Il y a toute l'intelligence qui vient de l'écriture qui vient avec, quoi. Ce film est fou, quoi.
Morpheus, en même temps, il est un peu crackpot, là. C'est l'espèce de...
Oui.
C'est le croyant, le gars. Oh, t'as envie de dire... Non mais...
Parce qu'on peut
comme
faire une lecture, là. Vous dites, écoute, c'est des terroristes. Eux, dans La Matrice, ce sont des terroristes.
C'est vrai. Ouais,
et
c'est
puis,
vrai.
Ils aussi, je me rappelle que je me semble avoir lu des trucs là-dessus. T'sais. Je disais, au fond, c'est ces gens-là, et même eux, ils le disent, tant que les gens ne sont pas déconnectés de La Matrice, ils font partie du système.
Ouais.
Donc... On peut les aiguiller. Dès qu'on arrive dans le hall, je veux dire, les policiers, les pauvres policiers. Ben,
oui, c'est ça, je me suis posé cette question-là. En voyant le film, je me suis exactement posé cette question-là.
Mais t'as raison, c'est vraiment, puis c'était avant 2001.
Oui, c'est avant 2001.
On est avec 2001, puis c'est des terroristes. Ouais. C'est un film de terroristes, mais pro-terroristes.
Parce que la première fois qu'on voit Neo dans le film, quand on voit en plus, ce personnage-là en plus est en quête d'identité, puis ça commence avec on sort de la matrice de l'écran, puis c'est le mot qui apparaît, searching. Searching. Puis là, ensuite, on voit donc Neo qui est couché, mais à l'écran, on voit des images, des clips de journaux, puis c'est Morpheus, puis Manhunt. Puis
c'est
vraiment, OK, mais il est en recherche, on sait pas trop de quoi. Puis, mais il n'y a rien qui sert à rien. Dans
c'est écrit Neo, wake up. C'est ça que tu vois.
Après ça, wake up Neo.
Ouais, c'est très... Écoute, c'est bourré d'allusions spirituelles, puis je trouve ça un petit peu paradoxal, parce qu'il y a un côté, je sais qu'il y a des... Ça a été repris là, par des gens assez de droite, là, de Matrix, comme étant... Tu sais, les gens qui sont des tripeux de théories de conspiration et tout. Puis en même temps, t'as les frères qui sont devenus les sœurs Wachowski, qui sont probablement des gens relativement progressifs, on imagine, fait ce film-là. Ça peut être aussi... Tu peux avoir une lecture complètement différente de l'idée de la double identité, puis de la découverte de soi, puis de que la vérité n'est pas ce que tu crois et tout. Puis d'un côté, ça va être repris par des conspirationnistes, tu sais, parce que c'était à l'époque de X-Files aussi, là. Mm-hmm. Matrix est sorti, est sorti pas longtemps après.
94, 95.
Mais qui a duré pendant super longtemps, ouais, X-Files. Puis c'était, la génération qui a vu The Matrix,
ouais,
c'est la génération, comme moi j'en fais partie, là, qui a été marquée par X-Files. Nous, on se mettait en gang, on attendait, ben, ça commençait à minuit. Là, on s'installait, là. Puis tu sais, vendredi soir, t'as d'autres choses à faire quand t'as 19, 20 ans. Non, nous autres, on s'installait, puis on écoutait ça, on faisait venir du monde, puis c'était le party d'écouter The X-Files, tu sais. Puis moi, j'étais toujours la sceptique qui était comme...
En 4-3, c'est vrai.
De quoi?
En 4-3.
C'est clair. On n'avait pas d'autres options. Mais c'était comme, c'était ça, là. C'était notre trip, là, excusez. C'était vraiment... donc, le côté... Puis ça, Matrix, The X-Files, c'est...
Ben geek, hein.
C'est la théorie de la conspiration, là, de truth is out there. Ben, c'est le Matrix, c'est comme ça, c'est l'aboutissement
c'est
de vrai. Ça.
Oh, c'est What is the Matrix? C'est ça la question au début. Quand Morpheus dit What is the Matrix? Tu sais quoi la matrice? L'autre ne sait pas. Puis lui répond, ben, c'est ça, c'est la vérité qui t'est tirée des yeux pour te garder en prison.
C'est
A
ça.
Prison for your mind. Puis c'est drôle parce que quand on regarde ce film-là, Matrix, là, je trouve tellement qu'on pourrait en faire une lecture queer, si on veut. On va faire une analyse queer ensemble avec ce qu'on sait maintenant, les frères Wachowski. Parce que moi, quand je parle de Matrix, pour moi, c'est les frères Wachowski.
C'est
pas les sœurs Wachowski. Tu veux dire, c'est les sœurs Wachowski qui ont fait Sense 8. Ouais, c'est ça. Ouais, puis Cloud Atlas, je pense.
C'est vrai. Je pense que oui, ils étaient déjà. Oui, il y en avait un des deux qui était déjà.
Pas pour Matrix. Durant Matrix.
Non, Matrix, non, ils étaient encore les
deux. Cloud Atlas, je pense qu'il y en avait un.
Ouais, ça s'est fait en deux étapes.
Donc, puis tu sais, tu regardes le générique, puis c'est Wachowski's Brother. Tu sais, bon, encore. Mais je veux dire, en même temps, c'est drôle parce que quand tu regardes.
Tu dis ça, mais on pourrait avoir juste une petite parenthèse pour connaître des gens trans, c'est qu'ils savent qu'ils sont des femmes depuis tout le temps, puis c'est juste le fait qu'ils soient coming out. Moi, je pense qu'on peut quand même parler d'un film des sœurs Wachowski, dans la limite qu'à l'époque, pour ces personnes-là, il n'y avait pas la capacité d'affirmer leur identité, mais probablement qu'ils se sentaient déjà femmes.
Mais quand qu'on pourrait faire une lecture queer, non, c'est ça, c'est que justement, c'est que Neo, dans le film, parce que ça m'a vraiment sauté aux yeux, que je l'ai écouté depuis hier, puis il y a une couple d'affaires qui m'ont sauté aux yeux, c'est justement quand que Trinity arrive dans le bar. Mais tu as raison de dire ça. Là, je vous dis, dans le sens, je dis c'est les frères Wachowski, mais je suis tellement habitué de dire les frères Wachowski.
C'est ton attachement.
Non, ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que, je veux dire, quand tu regardes, même sur le plan du scénario, sur le plan de la structure, comment est-ce que, tu sais, c'est une prison pour leur. In prison for your mind et tout ça, tu sais, quand on va dans ce sens-là. Puis là, il y a la scène dans le bar où est-ce que Trinity arrive la première fois, il rencontre Neo.
Ouais.
Neo. Puis là, il dit Jesus. Neo dit Jesus. Trinity a dit What? I thought you were a guy.
Puis là, il dit, a lot of people.
Most guys do.
Je l'ai pas catché.
Puis le personnage de Trinity.
À quoi ça sert, cette réplique-là? Ça sert. T'inquiète, mais.
Ouais, puis le personnage de Trinity est intéressant parce que c'est pas une femme, justement. Ils n'ont pas choisi. On est loin de Transformer, là, avec l'espèce de petite pétasse.
On est loin de la bimbo.
Avec Carrie Ann Moss.
Carrie
Ann Moss, elle est.
Actrice canadienne.
Mais très jolie.
Elle est jolie dans un style un peu. En tant que je me rappelle, c'est Sigourney Weaver aussi dans Alien qui n'avait pas un casting bimbo du tout. C'est comme des femmes différentes et tout. Puis c'était rafraîchissant aussi.
Puis tu regardes les autres personnages aussi. Il y a un personnage qui a des cheveux blonds dans Matrix, je me rappelle plus de son nom. Switch, je me rappelle plus c'est lequel. Switch, elle est androgène solide. Ouais. Non, c'est pas du tout. Donc, tu sais, il y a déjà.
C'est vrai.
Le premier film, de toute façon, je pense, vous savez sûrement, quand les frères Wachowski ou les frères Wachowski sont arrivés avec cette idée-là du film de Matrix.
Appelle les dés, si tu veux.
Appelle les quoi?
Dés. Mais c'est un truc en anglais, c'est que plutôt que dire « ishi », tu vas dire « dés ».
Dés, OK, c'est vrai, dés, oui. Quand les Wachowski sont arrivés, ils sont arrivés avec le DVD de Ghost in the Shell.
Ah oui!
Et puis, ils sont arrivés devant le producteur, ils se sont dit « nous autres, on veut faire ce film-là en live action ». Et puis, ben là, ils se sont dit « wow ». Les producteurs se sont dit « wow ». Non, on va vous faire autre chose. Mais là, ils ont fait « Bound », le film avec deux lesbiennes.
Ouais,
un trailer.
Qui était sympathique, qui était assez
extrêmement chouette. Ouais, puis là, il y avait une bonne réception critique, d'ailleurs. Ouais. Donc, ce qui fait qu'ils ont même s'il y avait...
Ils ont convaincu.
Ils ont convaincu avec la qualité de ce film-là. En tout cas, du moins, le succès critique qu'ils ont eu.
Oui.
Mais imagine là si parce qu'on l'a eu le Ghost in the Shell en live action depuis.
Non, mais ce qu'il voulait dire, il voulait faire avec The Matrix un film dans le style de Ghost in the Shell.
Ouais, oui.
Pas le Ghost in the Shell de 95.
C'est ça, parce que ça fait partie des influences.
Oui, non, je sais bien. Non, mais je dis parce que comme j'imagine ce que ça aurait donné.
Ouais.
Si les Wachowskis avaient
décidé de faire, ah, puis les influences sont énormes.
Eux décidé de faire la version live action de Ghost in the Shell.
C'est long parce que quand on regarde le code, oui, on sait bien maintenant c'est un secret positionnel. Le code, c'est vraiment une référence à Ghost in the Shell, sauf que Mamoru Oshii a fait une version Ghost in the Shell 2.0. Puis il a enlevé cette image iconique au début du générique, du code vert qui forme le générique pour le transformer en une séquence un peu jaunasse, plus épurée.
Est-ce qu'on en a parlé déjà? Parce qu'on l'a fait. On l'a fait, Ghost in the Shell, mais je ne sais plus si... On l'a fait. Je vieillis, je ne me rappelle plus trop.
On commence à en avoir pas mal là, dans le climatateur. L'air de rien.
Mais, je ne pense pas qu'on ait parlé de celui-là. En tout cas, moi, je sais que je ne l'ai pas vu.
C'est la version revisitée?
La version revisitée,
non. Ouais. Non, je ne me rappelais pas de
les personnages d'un personnage de Motoko étaient refaits en 3D à quelques reprises dans le film en 2D.
Ah, okay.
Donc, ouais, à ce point-là. Okay. Donc, c'est assez particulier.
Est-ce que c'est intéressant? C'est-tu bon?
C'est pas vraiment intéressant.
Non, parce que le premier, moi, je me rappelle le premier Ghost in the Shell.
Le premier était novateur, même sur le plan technique.
Écoute, j'ai vu ça à Fantasia, puis c'était comme magnifique, là. Ben, un peu comme The Matrix, ça m'a même fait de wow. Ouais.
D'ailleurs, écoutez notre épisode sur Ghost in the Shell. Si vous voulez en savoir plus sur notre expérience.
Ghost in the Shell. Pas savoir plus ce qu'on avait dit à l'époque. Visiblement, on s'en rappelle pas. On va le réécouter nous-mêmes, alors on l'écoute en cache.
Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment trippé Matrix, c'est à cause de Ghost in the Shell. Parce que la première fois que j'étais en contact avec l'animation japonaise, je pense adulte, entre guillemets, là.
C'est Ghost in the Shell.
Parce qu'avant, moi, c'était Candy au pays de Candy. Bon, puis
Goldorak.
Ces trucs-là, mais là, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était élevé, moi, ma génération, en tout cas, la génération X, là, on était élevé dans les années 80 avec des animés, là, les coproductions franco-japonaises qui débarquaient au Québec et tout ça. Puis arrive Ghost in the Shell. Waouh!
Mais Ghost in the Shell, c'était même novateur. Je pense que c'était novateur aussi au Japon. Là. Je pense que la qualité de cette production-là...
Mais c'est drôle parce que j'ai parlé à des Japonais par la suite. Dans un cours, je faisais un cours intensif en anglais. Je me rappelle plus trop où. Puis il y avait une Japonaise. Ah oui, pour moi, c'est une Japonaise. Elle a vu Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Non. OK, c'est bon. Pour moi, c'était un classique. Tout le monde avait vu ça. T'sais. Même les Japonais eux-mêmes. Mais non.
Shirimasen, Wakarimasen.
Wakarimasen.
Ce qui est fascinant dans The Matrix aussi, c'est tout le côté philosophique. Donc, on a un peu effleuré, mais c'est comme aussi la fameuse cave de Platon, la notion de la réalité, cette idée-là des intelligences artificielles qui vont prendre le contrôle sur l'être humain. C'est rare qu'on ait ça d'aborder dans le cinéma grand public. Là. Je veux dire, il y a peu de films qui sont allés aussi loin dans cette espèce d'analyse philosophique-là.
Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que pour une fois, les professeurs avaient la possibilité de pouvoir utiliser un film populaire dont ils étaient sûrs que les jeunes, leurs étudiants avaient pas mal vu. Et puis, ils pouvaient donc illustrer des concepts comme la caverne de Platon et tout ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc c'était un film qui permettait d'illustrer des théories, t'sais, en classe. Donc ça devenait un film pédagogique aussi beaucoup en soi, t'sais, dans ce sens-là, qui permettait de pouvoir... démontrer des concepts.
Puis les frères, sœurs Wachowski, elles insistaient que pour que tous les pauvres acteurs lisent le livre de Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation.
Mais ça, puis il y a d'ailleurs une référence dans le film, tu sais, assez clairement. On la voit clairement, puis c'est drôle parce que justement, tu sais, Simulacre et Simulation, puis le pouf, il ouvre le livre. C'est pas du tout un livre, c'est un contrat, des logiciels, tu sais.
Je sais pas, est-ce que tu l'as lu, toi, ce livre-là?
J'ai lu des petits bouts, là, mais à côté, ça fait longtemps. Si je l'ai lu, ça fait longtemps. Honnêtement, j'ai lu une tonne de bouquins, là. Mais celle-là, je me rappelle plus, je l'ai lu.
Mais moi, je me disais, j'imaginais...
Moi, je l'ai jamais lu,
celui-là. Non, mais c'est parce que c'est comme ça doit être... C'est comme lire du Deleuze, là.
OK, ouais, d'accord. C'est du lourd.
Oh, ouais, Deleuze, Baudrillard, c'est pas mal.
J'imagine dans la même catégorie. Je suis déçue parce que je voulais comme essayer genre de lire 2-3 pages. Puis j'ai comme... Parce que je vais à la bibliothèque de temps en temps. C'était assez pour mon documentaire, juste mon propre documentaire. Puis là, je me dis, ah, il faut que j'aille chercher ce livre-là, mais je l'ai pas fait et tout. Mais j'imagine, j'ai juste une scène là, de voir Keanu Reeves qui est pogné pour lire Je ne sais pas, pour moi, c'est juste comme quelque chose d'extrêmement drôle.
Mais c'est drôle parce que je pense que Baudrillard, par la suite, il n'a pas renié Matrix, mais il n'y a pas...
Pour lui, il dit « Mon livre n'a rien à voir avec
Matrix ». Pour lui, oui, puis ils n'ont pas compris. Mais en même temps, je ne suis pas tout à fait. Je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose. Parce que tu regardes, parce que ça, je parle à mes étudiants là, dans le cours de technologie numérique, tout ça, puis je parle de c'est quoi la différence entre simulation et simulacre. T'sais, un simulacre, c'est une copie. C'est une simulation sans original. T'sais. Donc, alors qu'une simulation, tu simules quelque chose, une image numérique, une image de synthèse, mais à partir d'une copie qui existe dans la réalité, puis tu en fais tu la recrées, tu simules. T'sais.
Fait, pis la, le Matrix, ça serait une simulation.
Le Matrix, c'est une simulation, mais qui mène vers un simulacre, parce que quand la matrice qui existe, il n'y a pas d'original, l'original n'existe pas. C'est 200 ans plus tard. Ils prennent des données qui existent un peu partout pour essayer de recréer quelque chose qui peut-être est.
Oui, parce que
à l'original.
C'est pas réel, parce qu'à un moment donné, il y a une scène dans le film qui est intéressante où est-ce que t'as quelqu'un qui dit ce que je mangeais, c'était-tu des shredded wheat ou c'était vraiment.
C'est ça.
C'était pour être du thon, comment la matrice savait et tout. Donc, mon expérience, vraiment, tu sais.
C'est ça.
Ça, je trouvais ça, c'est des petits moments intéressants là, que t'as dans
c'est
le
pour
film.
Ça, c'est comme c'est que la copie, l'original, s'est perdu avec les années. Donc, la matrice simule une réalité interactive de la Terre. Qu'il pense
être en 1999.
Être en 99, tu sais. Donc, mais il y a pour ça que quand on arrive, la caméra descend, Welcome in the desert of the real. Ben, c'est ça, le désert du réel. C'est qu'il n'y en a pas de réel. Le désert du réel, il n'y a rien. C'est un désert. Mmh. Donc, c'est une copie de quoi? C'est une copie. Il n'y a pas d'original. C'est ça. L'original n'est plus là. L'original, c'est un désert. Donc, c'est. Fait qu'à quelque part, il y a quand même, tu sais, du Baudrillard, dans Matrix, là, quand même, qui s'est faufilé, puis qui marche, là.
En tout cas, ils l'ont. Ils l'ont modelé pour fitter ça là-dedans. Oui, il se reconnaît pas forcément. Oui, il refuse de voir. Il refuse de s'apparenter à quelque chose de populaire là.
Ouais, sûrement il y a un petit peu de ça.
Tu penses que c'est l'intellectuel français qui rejette la culture populaire?
Non, mais c'est les Rolands de la c'est l'école de Francfort là. C'est les Rolands de l'école de Francfort, l'Adorno et tout ça, là, qui eux critiquaient la culture là, populaire puis l'industrie culturelle et tout.
Donc Baudrillard fait partie.
Ouais, Baudrillard c'est un héritier. C'est en continuité directe de l'école de Francfort qui renie tout ce qui concerne la culture populaire.
Ça expliquerait. Dommage, ouais. Parce que c'est un bel hommage, en fait, à son travail. Moi, je trouve un film comme The Matrix, quand tu sais que les réalisateurs ou réalisatrices ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour que tout le monde qui était dans le cast lise. Moi, je vois plus... c'est drôle, hein, mais j'ai plus... Je trouve ça plus crédible d'imaginer Fishburne en train de lire... Insulation, j'en reviens à Keanu Reeves. C'est pour moi, Keanu Reeves a quelque chose d'un petit peu vide, puis je trouve ça drôle, parce que c'est un acteur qui était très... On riait beaucoup de lui à l'époque, mais sérieusement, The Matrix, c'est son meilleur film de loin. Ouais. Là. C'est là-dedans qu'il est le plus...
Il est parfait, en fait. Son côté vide, comme tu dis, finalement, ça marche.
Mais en fait, c'est dans ce film-là que Keanu Reeves manipule le mieux l'effet Kuleshov. Keanu Reeves triste.
Explique
là, il n'y a pas d'image, là. Keanu Reeves... Ouais, c'est ça, il faut l'expliquer, parce qu'il n'y a pas d'image.
Il parce que toi qui es prof de montage, tu dois le connaître par cœur.
L'effet Kuleshov, c'est une expérience des années 20 là, de Kuleshov qui a été reprise par la suite. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas. C'est l'une des expériences qui a été le plus parlée, en fait, dans les cours de cinéma, dont on ne retrouve pas l'original non plus.
L'original
n'existe plus.
La photo, c'était le monsieur.
Un bol de soupe.
C'est un monsieur qui a comme une face, comme genre vraiment.
Une face d'enterrement.
Puis là, après ça, tu juxtaposes une photo avec un bol de spaghetti ou de soupe.
Un bol de soupe.
Là, tu demandes aux gens. C'était quoi l'émotion de la personne? Ben, il a faim.
Ouais. Après ça, tu montes une fille dans un cercueil, puis c'est quoi son émotion? Ben, il est triste.
Après ça, tu montes un chien, là, il est comme, je sais pas quoi, il est content.
Ouais.
Là, il est comme...
Évidemment, tu montes ça à des étudiants de cinéma, ils savent bien, on est dans un contexte d'analyse. Fait qu'ils savent, il y en a qui ont entendu parler de l'effet. Mais c'est l'impact sur la perception du spectateur qui est intéressant.
Puis c'est la juxtaposition d'image après qui va te faire comprendre. Puis donc, pour nous, Keanu Reeves étant une espèce de face, mais vraiment, il y a zéro expression. Donc, tu peux mettre n'importe quoi après. Après, tu sais, la scène où est-ce qu'il boit, là, ça, c'est un exemple. T'sais, l'autre, cet acteur-là qui jouait d'ailleurs dans Memento, là, l'acteur qui fait le méchant là, dans
Matrix.
Il est bon, cet acteur-là.
Joe Pantoliano.
Cypher. Lui, il a de la personnalité.
Oh, oui.
Lui, il est clair. Lui, tu vois tout de suite ses émotions et tout. Alors, il est là,
dès le début, dès le début, quand on voit le personnage la première fois, que Neo rentre, puis le premier qui le regarde, c'est lui. qui l'a rentré puis tout.
C'est un acteur super histoire. Bah, c'est un character actor. Là,
ben oui, c'est ça.
Il a toujours de ses rôles. Il joue, il a toujours un petit peu le même shtick, si tu veux, mais super expressif.
Moi, je l'aime bien.
Ah, moi, je l'aime beaucoup aussi.
C'est un de ces acteurs de soutien que quand tu le vois dans un film, t'es toujours content parce qu'il est comme. Il apporte quelque chose à ces personnages.
Il est aussi dans Bound, je crois, non? C'est lui qui est aussi dans Bound? Joe Pantoliano, il est aussi Cypher?
Oui, mais dans quel film?
Dans Bound, il est aussi dans Bound, je crois, dans le premier film des Wachowski.
Ah, peut-être.
Bound, okay, il me semble jouer. C'est une petite parenthèse, là, c'est pas important, mais...
Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans ce moment-là, moi, je trouvais ça fascinant parce que, tu sais, c'est l'autre, tu sais, comme qui teste, c'est genre, il est comme, ouais, t'es qui, t'es comme, allô, ouais. Hein? Tu sais, il fait le bad boy qui a introduit l'autre et tout, qui dit, ouais, toi aussi, hein, tu dis que t'aurais pas dû prendre la pilule rouge. Quelle idée. Puis là, il a fait à boire, puis l'autre, il est comme, il stick, mais tout le long, puis t'es comme, genre, Kino, Néo, qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens? Là? Il y a juste l'air, tu sais, comme genre fatigué, là, genre, OK, là, je suis comme sorti de la Matrix. C'est un petit peu.
mais ça fit par rapport à son personnage, puis ouais, ce qu'il vit, parce qu'évidemment, à un moment donné, tu sais, quand il vient de se faire expliquer la chose, la Matrix, que les humains sont des batteries, là, ben là, évidemment, après ça, il sort, puis vraiment, ça panique, on la ressent, là.
Ouais.
Ça panique vraiment, il panique, non? Son visage vraiment, fait que ce qui contraste avec justement le fait qu'il y a des moments, beaucoup de moments qui est vraiment très très stoïque, mais là ce moment-là, il est en panique.
J'ai pas regardé dans les trivia, mais je sais pas s'ils ont testé d'autres acteurs pour ce rôle-là.
Pour Keanu Reeves.
Pour le rôle de Keanu Reeves, pour le rôle de Neo.
Ils font toujours des auditions.
Mais j'aimerais bien avoir un peu un insight dans leur choix.
La belle histoire, c'est Carrie Admas.
Au final, c'est...
La belle histoire, c'est Carrie Admas. C'est la pauvre fille, elle faisait des soaps. Son gros...
Carrie Admas?
Ouais, elle avait joué... Sa carrière était comme finie parce qu'elle avait comme 30 ans, là, puis c'est comme trop tard pour une fille pour comme percer à cet âge-là. T'es déjà finie, puis elle avait juste joué dans des shows et tout, puis, tu sais, genre, elle va à l'audition de tout ça. Elle avait fait des trucs, je te dis des soaps, mais tu sais, des petits trucs boboches, elle avait rien de hot, là. Tu sais, un peu comme Starship Troopers, c'était tous des acteurs de soap, mais ça va avec le film, là, de prendre des acteurs de soap. Et puis là, du coup, avec elle, donc elle va ça. Puis elle avait joué aussi dans un truc qui s'appelait La Matrice, mais tu sais, un truc pas rapport, là. Okay, comme, ouais. Ça s'appelait juste La Matrice, mais c'était genre une sorte de télésérie. Je sais même pas si c'était une science-fiction.
Ça avait strictement rien à voir.
Ça avait rien à voir. C'est juste un add-on, là, tu sais, genre de truc cute, là. Tu sais, comme genre les gens qui cherchent deux acteurs de Star Trek dans deux films, puis ils trouvent parce qu'il y a tellement de trucs de Star Trek, tous les acteurs ont joué dans Star Trek ou technicien, whatever, là.
Okay, ouais.
On en a déjà parlé un autre podcast. Mais bon, c'est un peu le même principe. Puis donc, ça pour dire qu'elle
a explosé grâce à ça
qui l'a fait découvrir. Puis ça a été vraiment comme elle n'en revenait pas. Là, quand elle a été passée l'audition, elle était comme genre... Elle pensait pas qu'elle allait décrocher le rôle, puis elle l'a eu, puis ça a changé sa carrière. C'est quand même une belle histoire.
Notre imaginaire avec ce personnage-là, ça, c'est sûr.
Ben oui. Puis en plus, c'est elle qui a la scène, justement, tu sais, comme on parlait de la technique, c'est ça, parlons-en de la technique, parce que ça, on l'en mentionne pas. Puis c'est ça qui est bien avec ce film-là, parce que la technique, c'est ce qui a fait qu'on a parlé du film au début.
Ouais.
Mais c'est un film qui était beaucoup plus profond que juste les petites gimmicks techniques, parce que tu vois, ça fait comme une heure qu'on parle, puis on a effleuré cette fameuse technique-là qui, en fait, quand j'étais au cinéma, qui était une cinéphile, qui avait vu plein de films, puis je suis pas quelqu'un de très technique, je suis pas le genre de personne que, quand je regarde un film, c'est rare que je sors en me disant comment ils ont fait ça. Tu sais, j'aurais probablement vu
Généralement, l'immersion, Rocky, faut que l'immersion marche.
J'aurais probablement vu le film Rocky. C'est quoi, Rocky 4, là? Ou est-ce qu'il montre la première scène de Steadicam, là? Ou est-ce que j'aurais probablement fait OK? Tu vois ce que je veux dire?
Le tout premier Rocky, où il y a une shot de Steady.
La shot de 6 dans le Rocky?
Dans le tout premier, oui.
Ah, je pensais que c'était dans le plus tard.
Non, dans le tout premier Rocky.
Oui, t'as raison.
C'est quand il s'entraîne et il court, il est dans le marché, mais non, etc. Il monte les marches.
Ah, c'est quand il monte les marches,
ouais,
il tourne.
C'est le tout premier Rocky.
Oui, OK, c'est le premier. Ben, c'est là la première fois qu'on l'a vu, la shot de Steadicam.
Il finit.
On a une digression sur Rocky.
Ouais.
Mais en tout cas, bref, mais je me rappelle avoir vu ce film-là, puis d'avoir vu cette scène-là où est-ce que, comme, tu sais, la caméra tourne autour de quelqu'un immobile, puis j'étais comme.
Ah, moi, j'étais là, j'hallucinais.
Comment ils ont fait ça? J'étais comme, attends, c'est pas un ralenti? C'est comme quoi, ils ont un super ralenti. Mais attends, le gars, il fallait qu'il court vite en esti.
Vous savez que ça date, cette technique-là. Hein?
Ça date de...
Ouais, 1880.
Ah ben, tu parles du gars des chevaux, là?
Ouais.
Oui, mais...
Non, parce que lui, il a poussé avec deux Muybridge, en fait. Il a poussé avec trois caméras, trois points de vue. Puis il y a une expérience que j'ai pas réussi à retrouver, mais qui utilise cinq caméras autour, donc d'un cheval.
Oui, puis, mais personne, par la suite, au cinéma, personne n'avait fait.
Au cinéma, après ça, c'est que cette technique-là de chronophotographie, là, qu'on appelle dans le bon jargon, a été reprise par Gondry et d'autres en publicité
dans les années 90. OK, ben ça, tu vois, moi, je ne les avais pas vus.
C'est en publicité, puis Gondry en a fait beaucoup comme ça en utilisant cette technique-là.
Mais ça m'étonne pas. Gondry, c'est son genre.
La première fois au cinéma que la technique a été utilisée, c'est dans Lost in Space.
Lost in Space,
c'est un film un peu
oui, oui, oui. Puis, un truc avec William Hurt.
Ouais, puis, c'est ça. Mais l'effet comme tel.
Oui, je
a vraiment
l'avoir
été...
vu là-dedans et j'étais là. Oh, c'est fou, là, cet effet-là. C'est
moi, j'ai jamais vu que j'ai
vu. Mais l'effet a vraiment été, je dis popularisé, moi, je dis institutionnalisé, là. En tout cas, bref, qu'elle a été intégrée dans la narration comme un narrative device, là. Excusez-moi l'anglicisme. Donc, puis qui est justifié dans l'univers du film. Vraiment, c'est Matrix qui l'a utilisé. Ouais, c'est ça.
L'affaire avec The Matrix, c'est que ça fait partie aussi.
Ça
des
fait
fois,
partie de l'univers.
C'est comme ça raconte l'histoire aussi.
Puis l'esthétique aussi vient de... Puis c'est drôle parce qu'ils ont réédité Speed Racer, mais on voit cette esthétique-là de Bullet Time dans l'introduction d'animé Speed Racer dans les années 60, où est-ce que le personnage sort on voit le personnage qui sort, puis là, la caméra, en tout cas, le dessin arrive, puis là, le dessin fait tout le tour du personnage qui est figé dans les airs en sortant de sa voiture.
Mais ça, c'est un animé?
Puis ça, c'est un animé. C'est l'esthétique quand même.
Ben, les Wachowski ont fait le film Speed Racer, qui est tiré de cet animé-là, mais qui était moyen. Enfin, personnellement, j'ai pas vraiment aimé ça.
Mais il y a plein d'autres scènes aussi, la scène où il évite les...
la fameuse scène où il évite les... Mais c'est marrant parce que dans cette scène, en revoyant cette scène-là, oui, il y a cet effet-là et tout. Moi, il y a juste la shot, juste à après, je pense, okay, pour moi, c'est une case tirée droit d'un comic book, tu sais.
Ah, bah oui.
Où t'as Trinity,
Avec le fusil, Dodge This.
Ouais, le Dodge This, puis elle tire l'agent.
Moi, à chaque fois, je me dis, ouais, mais elle arrive d'où, elle?
Ah ouais.
Parce qu'il l'a pas fait arriver.
Cette frame-là, là, j'adore, tu sais, qui part en arrière au ralenti, là. Chaque fois, je suis là, oh, c'est magnifique, quoi. Droit sorti du comic book.
C'est ça, c'est un patchage de plein de trucs.
Ah oui, non, mais il y a plein d'influences.
Puis ça fait tellement plaisir de voir des œuvres qui sont des espèces de patchages que... Tu sais, des fois, on se demande, quand on regarde des films moyens,
mais
on se dit, pourquoi tu t'as fait un film moyen, là? Comme, fais juste un patchwork, ça va être vraiment le fun, tu sais.
Il y a des patchworks qui marchent pas, mais ça, c'est un patchwork qui marche.
Mais quel patchwork marche
pas? Tout se marie superbement bien, puis ça vieillit, c'est ce que je disais tantôt, ça vieillit super bien.
Oui, non, mais c'est clair, ça vieillit super bien.
J'ai revu l'autre fois, j'ai pris autant de fun.
Puis, sans vouloir plugger mon mémoire de maîtrise, mais...
Vas-y. C'est l'expert, vas-y. On peut le lire où? Il est dans quelle bibliothèque?
Oh mon Dieu, je sais pas. Sur Internet, en quelque part, sur un site quelconque académique. Non, c'est que, justement, je trouvais ça intéressant, mais truc, c'est que je trouvais qu'il y avait ce que j'appelais le cercle, un gros terme, le cercle herméneutique. T'sais, l'herméneutique, c'est de l'interprétation littéraire, mais c'est de l'interprétation aussi au cinéma, puis je trouvais qu'il y avait un beau cercle dans ce film-là.
Le herméneutique, tu viens de m'apprendre un nouveau mot, là, je vais aller chercher ça.
Puis, ça vient de la philosophie, là, d'ailleurs, là, mais donc l'herméneutique classique, tout ça, où est-ce qu'on on doit... Donc, quand on analyse un objet, on ne peut pas être à l'intérieur du cercle pour qu'il y ait à l'extérieur du cercle si on veut bien analyser un objet. Donc, sinon ça devient subjectif.
Non, mais tu sais qu'en physique quantique, quand tu fais une analyse, tu changes la réalité. Donc, l'analyse va transformer ton analyse.
Non, mais
va être faussée par le fait que tu observes. L'acte d'observation va fausser la réalité.
Ben, c'est la même chose.
Je savais que je pouvais avoir l'air intelligente quand même aussi.
Parce que ça, c'est la même chose classique.
Moi, je rentre même pas dans la conversation.
On est dans ce ton-là. Puis, parce qu'après ça, il y a un autre type d'herméneutique qui a été un petit peu plus modernisé là, par Gadamer qui dit non, on peut rentrer à l'intérieur du cercle. Puis ça, je trouve que Matrix offre un beau cercle dans le sens qu'il y a de quoi jouer. C'est un terrain, j'appelle ça le jeu rituel de la spectature herméneutique, machin. En tout cas, bref, c'est des beaux termes universitaires. Là. Mais en même temps, qui dit quand même ce que ça veut dire, c'est qu'on peut s'amuser. N'importe qui peut arriver dans Matrix puis s'amuser avec ses connaissances. Mm. Ma mère, au début, elle aime pas ça. Je reviens souvent avec ma mère, en tout cas. C'est que ça m'avait marqué. J'ai montré à ma mère, mais tu vous avez vu, puis au début, tu sais, les images, ça avait de la violence.
Ah oui, c'est ça.
C'est violent.
C'est toujours ça.
Il y a de la violence.
C'est toujours, c'est violent.
C'est violent. Ben,
ça,
à un moment donné.
Tu des fois, ça s'asseoir, là, comme mon père, je fais toujours ça. Ouais. Tu sais, comme j'avais montré, je pense que c'est Kill Bill que j'avais montré à mon père. Ouais. Oh, il avait ri. Il avait ri à la scène parce qu'il est docteur, OK?
Oui, OK.
Puis tu sais, à la scène où est-ce qu'il coupe que tu sens partout, là, je le vois partir à rire, je le regarde, pourquoi tu ris, espèce de sadique et tout, supposé être violent, t'aimes pas ça? Il dit, oui, mais c'est parce que ça marche pas de même, là. Tu peux pas avoir du sang qui gicle quand tu coupes la narthère de même.
Ouais, mais c'est ça,
c'est n'importe quoi, tu sais.
Tout le monde trouve son compte, tu sais. Tout le monde trouve son compte, puis là, tu sais, comme...
Pour revenir à ta mère,
rapidement, c'est qu'elle était bien spirituelle et tout ça, puis qu'elle a fini par voir quelque chose là-dedans, au-delà de la violence, que c'était un film extrêmement spirituel,
ben oui, très,
puis qui était porteur
foi,
aussi, là,
la foi de Morpheus, j'en parlais tantôt, ouais. quand je réécoute le film... Au début, c'était un petit peu n'importe quoi, mais en réécoutant ça, j'ai dit, mais il est fou! Il est fou, cet homme-là. Là. Il va mourir pour sauver... Il croit, là, mais il y a zéro évidence, là, tu sais.
Ouais.
Mais cette espèce de folie-là, cette ferveur religieuse, ça fait presque peur, là, tu sais, quand tu regardes le film, là, tu sais.
Puis, on parle de prophétie, on parle encore d'un mythe, puis il raconte le mythe, justement, du premier qui est sorti de la matrice.
Exactement.
Et donc, ils veulent reproduire ce mythe-là en ramenant, justement, l'élu, le retour de l'élu, comme il y en a qui croient que Jésus va revenir à un moment donné. Tu sais, puis c'est pour ça que c'est drôle, parce que là, je veux pas me faire lancer des tomates, mais c'est pas mon préféré, Matrix, de la franchise. Mon préféré, c'est le deuxième.
T'es-tu
sérieux?
Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que là, il faut falloir qu'on fasse le
il va falloir qu'on fasse
3,
la suite, ouais.
Puis je me posais la question, genre, comme... Tu sais, parce que quand tu regardes celui-là, dans le premier de Matrix, puis j'ai pas réécouté le 2 puis le 3 récemment, j'ai lu sur le 2. Puis donc, The Matrix, ça se tient comme film, mais il y a plein de choses qui sont pas répondues, tu sais. Mm-hmm. Puis il y a des personnages qui sont posés comme l'oracle. La scène chez l'oracle, je la trouve formidable d'un point de vue cinématographique et scénaristique.
Là,
c'est un moment magnifique. Ouais. Comment ils ont décrit ce personnage-là, comment elle parle, la petite scène du vase, la petite scène avec la petite fille qui est assise, les cuillères, elle dit... Puis tu sais, la façon dont elle parle peut être un peu spooky. The spoon doesn't exist. It's used bending around the spoon. Tu sais, puis là, t'es comme genre... Puis là, je suis sûre qu'ils ont copié... Ils sont allés écouter un gourou indien ou n'importe qui, puis tu sais, ils sont allés copier mot pour mot un philosophe. Tu sais, pour moi, il me dirait que cette citation-là de la petite fille, c'est sortie de Gandhi ou de je sais pas qui. J'y croirais, là. Aristote, n'importe quoi, n'aime-moi ça. Ou n'importe quel fake gourou comme qui est allé, celui-là qui est allé, qui justement, il pliait les cuillères sur Johnny Carson, puis qui a été montré que c'était un fake. Et non, n'importe qui, il y a quelque chose de super.
Qui est Uri Geller.
Ben, c'est comme ça dit, ouais, c'est ça, ça dit rien, ça dit rien, elle dit n'importe quoi en même temps, mais ça fuck ton cerveau, tu sais.
C'est pas la cuillère qui plie, c'est it is only yourself.
It is bands, tu sais, genre, you understand.
Qu'est-ce que ça veut dire?
The spoon doesn't exist. And when you get that, you realize that the spoon doesn't bend, you're bending around the spoon. Puis là, t'es comme genre, tu sais, ça me fait penser au.
Puis là, on arrive avec le rack qui fait des cookies.
qui fait des cookies. puis tu sais, comme qu'il lui dit, puis c'est pas grave pour le vase, il casse le vase, puis il est comme, tu sais, elle dit, plus que j'adore, ça dit, mais là, ce qui va t'énerver plus tard, c'est de savoir si je t'avais pas dit ça, est-ce que t'aurais cassé le vase? Ça, c'est un détail génial, parce que moi, je pense de même. Bon, en tout cas, je sais pas si vous pensez de même, mais moi pendant que ça se passait, j'étais en train de penser ça, puis quand elle dit, je suis comme, moi aussi, c'est ça, j'étais en train de fucker la... Puis j'ai trouvé ça hyper brillant d'avoir écrit une scène qui est comme remplie d'une sorte d'observation de comment le cerveau humain fonctionne.
Non, mais c'est écrit finement, le scénario-là, il est vraiment quand même... Parce que la structure, on va se le dire, la structure, elle est, c'est une structure typique.
Assez classique.
C'est le mythe du héros, tu sais,
la quête.
C'est même un récit qui respecte le monomythe de Campbell là, qu'on entend parler quand on parle de Star Wars aussi. Celui qui refuse l'appel de l'aventure, par exemple. C'est ça, c'est l'appel de l'aventure, mais là, il n'y a pas le choix. Il y a quelque chose de magique qui se passe dans le cas de
Neo. Non, puis il n'y a pas le choix. Il s'en va juste voir l'oracle. Puis déjà, il est encore plus plongé dans l'aventure malgré lui parce que c'est pas supposé se passer là. C'est supposé arriver plus tard.
Puis à un moment donné, il accepte l'appel de l'aventure quand il dit My name is Neo. Puis là, il n'y a pas le choix. Il accepte cet appel-là, mais il l'accepterait tardivement dans le film, mais il l'accepte quand même. T'sais. Ce qui fait que c'est pour ça que je pense qu'avec les deux autres, ensuite, on a comme un tout, là, un récit qui forme un tout.
Mais toi, t'as aimé les deux autres.
J'ai pas aimé le troisième. Ben, je dis aimé, il faut toujours relativiser, mais je veux dire, j'ai aimé la franchise de façon générale, comme je veux dire, j'aime Star Wars, mais que j'arrive à aimer l'âge Jedi quand je me le rentre dans la gorge à peu près 30 fois. Mais tu sais, en tout cas, ça, c'était...
On va te réinviter quand on fera la séance.
C'est sûr qu'on l'a
réinvité. Ça, je veux en parler.
C'est un autre sujet, effectivement, j'ai beaucoup aimé, parce que bon, pour avoir étudié en sciences et religions, tout ça, je trouvais ça intéressant, c'était là que dans le premier, on construit le mythe ouais. du héros, qui est l'élu, et là, on respecte vraiment on construit une image christique.
On respecte la mythologie aussi. Tout va dans le sens. Il n'y a rien remis en question.
Non, c'est une image christique qu'on respecte. À la fin, il revient, il meurt, il ressuscite. OK? Il meurt, il ressuscite. Et puis, il arrive à vaincre les méchantes persiennes. Donc, et puis, après, on voit, tu sais, le Morpheus qui dit « He's the one I knew. He's the one. » Il y a avec les balles et tout ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième? C'est juste un clog dans une machine.
Ouais, il se clone.
Je disais un clog, là, un engrenage dans une machine qui est finalement un antivirus.
Oui.
Qui sert d'antivirus.
C'est ça, ouais,
faut vraiment que je revoie le deuxième, parce que moi, j'ai un mauvais souvenir du deuxième.
Je t'avais dit sur Slash Film, il y a fait un article qui disait c'est les films mal aimés qui devraient être plus aimés, parce que tout le monde a aimé Matrix 1 trop. Matrix 1, c'est comme... Je pense qu'il y a comme... Le problème avec Matrix 2, c'est qu'ils s'étaient rendus... Je sais pas comment dire. Ils sont allés... C'est un peu ce qui est arrivé avec la carrière des Wachowski après, c'est qu'ils sont devenus comme un peu too much pour leur public, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme devenu trop compliqué.
Mais la critique, je me rappelle d'avoir lu une critique de Manon Dumais dans Le Voir à l'époque, puis elle avait beaucoup aimé, puis moi, je me rappelle plus de sa critique exactement, mais ce qu'elle disait, c'est que, regarde, à un moment donné, il faut pas bouder d'un son plaisir. Regarde, quand il met ses lunettes, là, c'est cool. c'est cool d'y voir ce premier. C'est ça. En tout cas, c'est plus que ça. Sa critique, je me rappelle plus exactement ce qu'elle avait dit.
J'ai lu récemment sur Slash Film une critique. Elle est dans le genre de. C'est comme une série qui font des films qui ont été comme pas assez aimés. Puis il disait que le match
qui ont une valeur.
était vraiment bon. Puis explique pourquoi. Comme tout le monde,
maintenant.
Moi, c'est mon préféré. J'ai beaucoup de plaisir à l'écouter celle-là parce que je trouve qu'il vient justement démolir. Cette naïveté-là de l'élu et tout ça. Puis il met là dans le troisième, il ramène ça, tu sais, cette espèce de figure christique-là, ce qui fait que.
Mais on n'a pas le choix, je veux dire. C'est parce que ça. Enfin.
Ouais, moi, le 2, je l'avais trouvé tellement indigeste, quoi. C'était comme.
Mais c'est le 3 que tu as trouvé long, tu le mélanges.
Non, le 3, je l'avais trouvé correct parce qu'il y avait plus d'action. C'était comme plus. Donc je l'avais pris comme plus comme un film d'action, tu sais. Je le mettais pas à la hauteur du premier, là, mais.
Je dis que j'aime plus le Matrix que le deuxième. Je sais pas, c'est un petit peu comme les Star Wars, excuse-moi, c'est encore Star Wars. Le premier, là, je veux dire, tout sert à quelque chose. Le scénario, là, tout est... Puis le deuxième, ben, Empire Strikes Back, tout le monde capote sur Empire Strikes Back, c'est le meilleur et tout ça, mais je veux dire, dramatiquement, oui, c'est peut-être le meilleur, mais je veux dire, il y a des moments qui servent à rien. Tu sais, je veux dire, alors que dans New Hope, tout sert à quelque chose. Oh non, mais il y a des moments qui servent à rien dans le scénario. Dans le scénario, il y a des choses qui...
Non, mais je suis assez d'accord avec ça.
Alors que dans le premier, scénaristiquement parlant, mécaniquement, tout sert à quelque chose. Chose, ça fait avancer.
Oui, mais c'est parce que le premier établit toujours aussi les personnages, puis le mythe, puis tout ce qu'on fait une digression, on fait ça souvent. T'sais. Mais au moins, on parle pas de Friends, on continue à parler de...
Mais c'est un petit peu comme ça avec Matrix, je trouve. C'est-à-dire que le premier, tout sert à quelque chose, puis le deuxième, il y a des moments, tu sais, comme...
On peut être d'accord que Matrix, c'est un film culte qui a marqué l'imaginaire. Tout le monde le voit, tout le monde l'aime, il y a comme quelque chose. Puis les deux autres n'ont pas été à la hauteur ou dans le canon, il y a comme quelque chose.
Du point de vue transmédiatique, ça a été très marquant parce que d'autres, les jeux vidéo ont beaucoup marqué, les courts-métrages Animatrix ont beaucoup marqué.
Oh, Animatrix!
Donc, d'un point de vue transmédiatique.
T'as jamais vu Animatrix? Je comptais en parler, mais c'est bien qu'il fasse allusion. Mais Animatrix, si t'as jamais vu ça, il faut que tu vois ça. C'est un film anthologique.
Il y a quoi?
6 courts-métrages.
Ouais, 6 courts-métrages, dont 2 qui racontent un peu la genèse.
Dans l'univers de Matrix?
Ah, oui, clairement.
C'est réalisé par 6 réalisateurs différents.
Japonais.
Des Japonais.
C'est tous des Japonais qui ont réalisé les Animatrix.
Oui, pardon. Tous des Japonais. Et c'est
fabuleux.
Il y en a un qui est entièrement fait en image de synthèse.
Ouais. Ouais, chacun dans un style différent, un style d'animation différent.
J'ai quelque chose d'autre à voir.
Ah ouais, ça, il faut que tu vois ça.
Il y a Watanabe, je pense qu'il y en a un. Watanabe, je pense qu'il y en a réalisé un, ça se peut-tu. Celui qui a fait Cowboy Bebop, me semble. En tout cas,
ouais, en tout cas, c'est du beau monde.
Un autre truc qui est sur ma liste, Cowboy Bebop.
D'ailleurs, ils vont le refaire en live action.
C'est ce que j'allais dire.
Je me suis fait chicaner.
Netflix qui a annoncé ça, je crois.
C'est vrai?
C'est Netflix qui a annoncé ça?
Je pense quoi, ouais.
Qu'ils vont faire un live action.
Je viens de me taper le Bleach, le live action de Bleach, qui était cute. C'est correct.
Le Tilbury Fantasia, j'avais étonnamment été surpris quand même. Je suis pas très manga live, je trouve qu'ils se plantent souvent, mais celui-là, j'avais du plaisir.
Ils sont pas ratés de Bleach.
Bleach.
Ah, je Bleach.
La série
c'est une
Bleach.
Grande franchise de, tu sais, genre, quand
animé.
Tu vas dans les trucs de voyons,
le
Takuton, là, t'as comme la moitié du monde sont habillés en Bleach, là. Okay. C'est super populaire.
Ouais.
Ouais. Ça, Death Note, puis évidemment, Naruto, puis...
Death Note, ça, c'est un cas. C'est un cas, c'est très bon. Là.
Ah, c'est magnifique.
L'animé original, là, c'est excellent.
Oh, j'aime tellement Death Note.
Pas les films, là. On digresse.
Non, les films, non. Donc, revenons à The Matrix. Autre chose à dire sur The Matrix, ça serait, tantôt, j'ai passé, on a parlé du jeu des acteurs un petit peu, mais moi, j'ai vraiment aimé Laurence Fishburne là-dedans, là. Je veux vraiment le mentionner, il était trop bon.
Mais c'est...
On a pas mal parlé des acteurs, déjà, là.
Laurence Fishburne, on l'a vu il y a pas si longtemps dans Event Horizon.
Oui, c'est pour ça que j'avais envie de mentionner, parce que dans Event Horizon, il était comme... Mais dans The Matrix, il est tellement puissant, il est tellement...
Ouais, mais c'est un bon acteur, c'est un gars qui a beaucoup de présence.
Pour moi, The Matrix tient beaucoup à sa présence. S'il n'est pas là, n'importe quel autre acteur enlève... Tu sais, son côté, là, tu vois dans ses yeux, tu vois, tu sais, il est tellement content, il a trouvé... Néo, puis tu sais, puis on a un côté tellement...
Tout ça se fait de manière très tranquille, il est très serein,
il est tellement incroyable, là.
Puis il remplit l'écran, là, chaque fois qu'il arrive, là, il remplit l'écran, ce gars-là, là, il est fabuleux, tu sais.
Ouais.
Puis j'adore ces mythes.
Je voulais parler des Smiths. Ça, c'est super important parce que j'ai écouté un tu sais, genre une espèce de truc là, sur YouTube qui disait que The One, c'est pas Neo, c'est Smith, tu sais. Puis c'était super convaincant. Là, il expliquait, puis c'est vrai, parce qu'à un moment donné, il se met vraiment en question son rôle, puis il est comme emmerdé, tu sais, puis il est comme, il devient rogue un petit peu, là, dans le truc. Ouais, qui enchaîne toute la bébelle, puis il faut vraiment que je le retrouve, ce truc-là, que les autres, parce que j'écoutais, j'étais comme,
c'est drôle.
Ouais, t'as raison, c'est pas Neo, c'est
Hugo
vraiment
Weaving.
Smith.
Hugo Weaving,
ouais.
Hugo Weaving.
Il y avait une histoire.
Qu'il avait fait avant.
Il voulait vraiment que ce soit lui qui joue.
Ouais. Il voulait que ce soit lui, mais lui, il avait fait avant ce film-là, il avait fait Priscilla.
Priscilla, la Queen of the Desert.
Ouais, c'est ça encore là quand je dis l'acteur.
Mais qu'est-ce qu'il. Mais oui, je l'ai vu, mais c'est qu'est-ce qu'il fait dans Priscilla? Il fait un des trois
drag queens.
Il fait la jeune drag queen, la plus jeune des.
C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les gens vont faire une lecture avec tous ces joueurs-là de réalisateurs.
Il y a lui, il y a Guy Pearce qui est dans Memento.
Ben oui, je sais.
C'est vrai.
Il y a le troisième, c'est
Ben, c'est Terrence Stamp.
Oui, il y a Terrence Stamp, il y en a un quatrième.
Non, ils sont trois.
Non, ils sont trois.
Ils sont trois.
OK, ouais.
Mais oui, Terrence Stamp, il fait une des drag queens.
Okay. Oui, Terrence Stamp.
Oui, c'est extraordinaire,
la vieille drag.
La vieille drag queen, il est extraordinaire, cet acteur-là. Moi, je suis comme... À chaque fois que je le vois, je capote, là, il est tellement bon. Puis là-dedans, c'est comme, wow, tu sais, c'est trop drôle. Ah ben oui, t'as raison, il faisait... Ah!
Ouais, Hugo Weaving, ouais.
Wow, quel acteur!
Et puis après, c'était Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire, tu sais, Hugo Weaving est partout. Dès qu'il est quelque part, Hugo Weaving, on est là, tu sais.
Ben oui, mais c'est vraiment un acteur extraordinaire parce que, dans The Matrix, ce personnage-là...
Écoute, juste l'entrevue au début, avec Neo la première fois, là, ouais. Je veux dire, écoute, juste ce face-à-face-là, c'est un duel, je veux dire, vraiment extraordinaire. Là.
Ah, il a vraiment créé une sorte de...
Puis sa diction, tout son demeanor, là, tu sais.
Oh. Ah,
ça me ramène à Dark City, justement, avec les personnages qui étaient... C'est cette espèce de evil personnage-là. Ben là, c'était le gars qui me faisait, dans... Rocker Picture Show qui jouait dans de Dark City, là, tu sais, cette espèce d'acteur iconique là qui tient un rôle, qui a une personnalité, puis cette espèce de presque une caricature, sont à la limite de la caricature, mais c'est pas des vrais êtres humains, c'est des programmes, donc ils ont comme, tu sais, ils ont quelque chose de très, tu sais, il l'a bien incarné, mais en même temps, il est rogue, tu sais, il est pas, c'est un rebelle, tu sais, lui-même, dans sa logique, il y a quelque chose qui, il obéit pas tout à fait, ou il, tu sais, il est comme, les autres viennent lui dire, ben là, ce que t'as fait, c'est pas legit, puis il est comme genre, pff, whatever, tu sais, il y a comme quelque chose d'étrange, là, tu sais. Toute l'idée de l'intelligence artificielle aussi, ça, c'est un autre thème qui est intéressant. On parlait de que Matrix vieillissait bien, parce qu'en ce moment, une de nos obsessions, c'est justement, c'est l'idée, parce que quand j'avais vu The Matrix, alors moi, là, je l'avais eu tout faux, j'étais sûre que c'était des extraterrestres qui étaient venus, puis qu'il y avait comme Harvest, puis là, écoute, j'ai dit, ah, non, c'est vraiment comme Terminator, là, c'est des robots.
L'homme et la machine.
L'être humain et tout.
La machine qui a gagné. Puis que...
À la chose stupide de The Matrix 1, c'est l'idée qu'ils vont cultiver des êtres humains parce que c'est comme des batteries. Dude!
Mais ça marque l'imaginaire quand tu regardes le film la première fois.
Oui, mais tu aurais pu dire que c'est parce que c'est des je sais pas moi, c'est comme des neurones pour un voyons pas des neurones mais des ordinateurs, tu sais, que ça sert à faire du calcul. Ouais, tu aurais pu sortir quelque chose du network, neural network, c'est ça, tu sais, que les êtres humains sortent un neural network et puis la machine s'en sert comme machine.
La batterie, c'est trop simpliste pour toi.
C'est trop stupide, c'est pas juste trop simpliste, parce qu'il faut que tu comprennes les principes de base de l'énergie. En plus, tu crées un être humain complexe.
Oui, c'est vrai, ça demande de l'énergie.
Tu sais, comme genre, un herbivore, OK, est plus efficace énergétiquement d'un carnivore, tu sais. Right? T'as une chaîne d'énergie, une plante est plus efficace. Donc, pour les machines, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est de l'électricité puis de l'énergie. La dernière chose que tu fais, c'est un être aussi complexe que l'être humain. Là. On est comme, inefficace, là, tu sais. Puis je sais, j'ai écouté un truc parce que, tu sais, des fois, je suis pas sûre. Moi, quand j'ai
mais c'est pas la première à le dire, mais c'est sûr que j'ai entendu.
Non, mais moi, c'est quand j'ai vu le film, c'est la première chose que j'ai pensé. J'ai fait tout est pour. Ah, wow, génial. Puis là, j'étais comme, pourquoi ce moment vraiment stupide? C'est juste ce truc-là stupide. Il n'y a pas comme un script doctor qui avait un minimum, tu sais, parce que quand t'as. Il faut que j'arrête de le dire. Pareil que je dis trop que j'ai une formation en sciences. Mais bon, tu sais, quand t'as un peu de culture scientifique, tu le sais tout de suite, t'es comme genre « duh », tu sais. Puis, il y avait le Neil deGrasse, justement, qui analysait de Matrix à un moment donné, qui a confirmé ma théorie que c'était le moment stupide du film, qu'à part ça, il est vraiment hâte le film. J'étais comme « I know », tu sais.
Parce qu'évidemment, tu sais, c'est comme, on l'excuse, tu sais, que le soleil est caché, et puis que là, ils n'ont plus d'énergie. Ils ont décidé de nous prendre comme des batteries. Je dis « ouais, OK ».
Ouais, mais tu sais, comme...
Mais moi, je veux dire, quand j'étais voir le film la première fois, puis je pense que la majorité des gens... je suis d'accord avec toi là que c'est ça peut être stupide, mais moi je veux dire non, ça m'a pas.
Mon
suspension of disbelief là totalement là, je veux dire non. Moi je trouvais ça vraiment oh shit, pour moi c'était comme waouh, hey, c'est macabre, tu sais, dans de la glu servir de batterie,
ça je suis d'accord. Mais
le principe de base,
il y avait juste une petite
c'est vrai que l'idée d'utiliser le cerveau humain,
le cerveau comme une espèce de processeur
pour faire du networking,
ça aurait pu, c'est juste un petit détail,
ajouter un petit truc de plus pour dire OK, il y a un plus value à connecter une couple d'humains comme ça
versus c'est comme genre c'est mieux de connecter des humains que des
couples, c'est plutôt d'utiliser plein de machines en network pour servir les
gens,
plein d'humains en network, oui, donc la machine, c'était un beau renversement à faire aussi.
Ça m'énerve, ce truc-là stupide. Okay, si jamais je rencontre les Watchers Project, je vais dire « Dude, je suis votre script doctor pour sister. » Ben, on peut dire « Dude » pour une fille, non « Dudette
»?« Dudette » Oui, « Dudette ».
Je pense que « Dude », c'est neutre, c'est pas neutre.
Moi, je dis « Dude » à tout le monde.
Oui, il me semble que « Dude », j'ai une bonne question.
Pour moi, c'est
neutre. J'ai commencé à dire ça récemment, « Hey, Dude ».
Non, mais quand tu dis qu'on rencontre une fille, tu peux pas dire « Dude ».
Non, mais c'est seulement quand je veux marquer un point. « Hey, Dude ».
Exactement. Hey, dude, doudette. Je vais les appeler doudette. Je vais dire, hey, doudette. La prochaine fois, vous avez besoin d'un script doctor, me, OK? Je vais vous le checker, la science en
votre. Savez-vous qu'ils sont un petit peu en retrait, là, en ce moment? Ils ont vendu leur compagnie, leur bureau à Los Angeles, je pense. Ils ont vendu leur bureau. Ça se trouve comme nouvelle.
Parce que leur dernier projet, c'était quoi? C'était Sense8, finalement?
Sense8. Écoute, la carrière des Wachowski, il fait, t'es en pente descendante. Là,
c'était gentil, Sense8.
Sauf les 15-20 dernières minutes qu'on n'avait vraiment pas besoin, mais ça, c'est une autre histoire.
J'ai pas vu la fin de Sense8.
Qu'est-ce que c'est?
Je dirais pas, si je veux pas donner de spoilers.
T'as raison.
J'ai jamais vu la fin de
Sense8. On spoil The Matrix, c'est pas Sense8.
Il y a quoi, trois saisons? Deux saisons?
Une saison.
Il y en a deux, je crois.
Il y en a deux?
Il y en a deux, mais ils ont fait une finale. Netflix a accepté de faire une finale de 2 heures.
Ah, OK.
Pour compléter l'histoire.
OK, parce qu'ils ne voulaient plus continuer. Parce que c'est vrai que ça s'étirait un petit peu.
Ben moi, j'ai beaucoup aimé la saison 2. La saison 1, je trouve qu'ils sont étirés à présenter les personnages.
Ouais, c'est ça.
Scène de baise après scène de baise, orgie après orgie.
À un moment donné,
puis c'est correct, les scènes de baise, je suis. mais je veux dire, à un moment donné, c'est OK. Puis après, puis là, la deuxième, ben là, on était dans le récit. Tu sais.
Puis... Mais l'idée était bonne, la prémisse, ouais. C'était vraiment ouais. Chouette. Là,
puis c'est vrai qu'eux, c'était des networks, c'était des personnes qui
s'appelaient. Oui, exactement, c'était des networks.
Le thème récurrent des voyages.
Le thème récurrent. Ouais. Mais beau, mais thème, ouais, beau que... thème de science-fiction quand même, parce que pour en revenir au côté un peu ben, presque gothique, c'est effectivement cyberpunk, on est dans du cyberpunk.
Non,
là,
dans cyberpunk
espèce... à fond, là, l'espèce de la réalité, là, c'est comme genre, t'as la Matrix, que c'est comme tout. Puis vous remarquez, dans The Matrix, il n'y a pas de nature. Hein, c'est full urbain, ouais. Tu sais. Puis c'est vert. C'est la
photographie, oui, la photographie.
En tout cas, c'était peut-être mon moniteur qui était moins fort, mais en fait, il y a quelque chose.
Au niveau de l'étalonnage, le premier, il n'est pas si vert que ça. Puis dans le deuxième, troisième, c'est vraiment beaucoup plus verdouillet au niveau de l'étalonnage. Mais sauf que quand ils ont ressorti la trilogie en spécial, en tout cas, ils ont sorti en box set, là, ils sont revenus sur le premier, puis ils l'ont réétalonné un peu pour mettre du vert.
Ça doit être ça que j'ai sur Netflix.
Mais à part ça, moi, la dernière, je veux dire, la plus récente que j'ai vue, j'ai trouvé pas si agressant que ça, le vert, parce que je me rappelais que c'était plus vert que ça.
C'est pas une question que c'est agressant, c'est que tu sens l'espèce.
Mais ça a comme créé une mode aussi. Après ça, tu voyais que des trucs étalonnés comme ça. Là. Tout ce que tu voyais à la télé, les séries, les machins, et tout, c'était tout avec cette teinte verte.
C'est
une teinte froide,
tu sais. C'est là que tu te rends compte que le film est culte, c'est quand il influence tout le monde. C'est que ça a tellement marqué, c'est tellement. Ah, tu sais, puis c'est comme le look, là, des. OK, parlons du costume design. On repart.
Le costume design.
Mais il faut en parler dans The Matrix, parce que la pauvre fille des costumes,
le cuir et
malgré qu'il y avait beaucoup d'argent, elle n'avait pas beaucoup d'argent dans son budget. Puis je peux imaginer que si tu es un directeur de prod, à un moment donné, tu es comme écœuré qu'il y ait de l'argent qui s'est dépassé, genre pour le gars qui fait le kung-fu, là. Parce que lui, quand, le gars qui fait du kung-fu, comme lui, il ne voulait pas le faire, ce film-là. Puis là, quand ils ont proposé... Puis là, il a dit, je vais leur demander un prix qui n'a pas d'allure, ils vont me dire non. Donc, il a mis un prix, de pimper son prix à l'extrême avec des conditions. Je veux les acteurs pendant 3 mois à temps plein avant le film, puis c'est sûr qu'ils vont me dire non. Puis on dit oui. OK. Alors le pauvre directeur de prod, il regarde son budget, comme yeah, j'ai un beau budget, mais tout cet argent-là va dans le kung-fu, qu'est-ce que je fais? Là, surtout devant la fille des costumes, ben, je suis désolée, là, t'as comme pas d'argent, là, démerde-toi. Puis là, elle avait pas d'argent, puis là, comme elle a pris du matériel vraiment cheap, mais qui faisait la job pour faire les fameux costumes en latex, puis le look. Mais ça a pogné au bout, là. Ouais. Après The Matrix, là, fuck, tu peux pas sortir sans porte-porte. Tu sais, le latex, puis le truc, là, c'est sorti du. C'était plus juste les fétichistes qui portaient ça, là. C'était comme genre partout. T'avais des trucs en vinyle, ça n'en finissait plus,
les
là.
Les lunettes,
les fameuses lunettes, là. Ouais, écoute.
Puis c'est pas si cheesy que ça, là. Ça marche encore, là, tu sais.
Non, c'est pas un look qui parce que, tu sais, les petits bouts que j'ai regardés, je trouvais que c'était. Non, c'est pas démodé, là. Non, ça vieillit bien.
Mais je sais pas, quand tu rentres dans l'histoire, tu fais même pas attention à ça. C'est comme. Ça fait partie du lore, là. Tu sais, ça fait partie du décor.
Non, mais des modes qui se démodent pas, là. Tu sais, le gothique, c'est gothique, là. Ça fait, ça fait quoi, des années, combien de décennies?
Mais est-ce que Matrix, c'est gothique?
Je sais pas, c'est une bonne question.
Dark City, c'est gothique. Batman de Tim Burton. Matrix, c'est comme le Batman de Nolan. Oui, le Batman de Burton était gothique. Dark City était gothique. Puis, t'as Matrix qui est comme... un peu le pendant de Dark City, pas gothique, puis t'as comme le Batman de Nolan qui est pas gothique par rapport à Tim Burton, tu sais. Puis c'est un peu la même histoire, en fait.
Relativement.
Un est venu après, puis il change, comme on est d'accord, Dark City.
C'est quoi, c'est Equilibrium qui était venu après?
Equilibrium, il est venu après.
Ouais, puis
c'est quoi Equilibrium?
On l'a pas fait celui-là encore, mais on en a peut-être déjà parlé, mais je sais que c'est venu après Matrix, c'est ça, 2002, Et c'est, je sais que beaucoup de monde en parle un peu comme... Tu sais, il y a aussi un peu ce look, les longs manteaux noirs.
Avec les espèces de soldats avec leurs casques de moto, les voitures blanches.
Ça, c'est pas... T'es pas en train de parler de Fahrenheit...
Non.
Les soldats,
il y a peut-être des influences.
Mais il y a quelque chose un peu de Fahrenheit...
Oui, parce que c'est dans une société où tu dois pas... Tu t'exprimes pas d'émotion.
Non, t'es sur d'émotion, puis tu peux pas lire non plus. Ça se un peu de côté.
On a vu l'autre fois, on regardait les previews, puis on a vu ça dans les films parce qu'on se demandait quel film faire.
Puis quand ils se battent, c'est pas du kung-fu, mais c'est avec des fusils, puis en tout cas, c'est une drôle de forme d'arts martiaux avec des fusils à place de tes poings.
C'est très particulier, mais j'ai jamais vu ce film, mais j'ai curieux de le voir parce qu'au début, je me disais, c'est un espèce de sous-matrix. Puis en fait, ça a l'air que. Je voyais qu'il y avait un espèce de culte autour de ce film-là, tu sais. Enfin, en tout cas, il y a.
C'est un film qui a l'air d'être aimé quand même.
Il y a des fans.
Puis donc ça l'a pas, tu sais, 7.5 sur IMDb, c'est pas rien là quand même.
Ouais.
Tu sais, donc je me dis il doit y avoir certaines qualités, tu sais. Puis Christian Bale, tu sais, c'est pas,
bah, il était
pas
connu, budget, il était pas connu à cette époque-là, mais 20 millions. Il était pas connu en 2000.
Christian Bale, non, pas encore.
Bah attends, il y avait
en tout cas, il avait pas le tu sais, le star power.
Batman Returns, c'est après ça.
Non, c'est à partir de American Psycho qu'il est devenu connu.
American Psycho, c'est après ça.
Je veux dire, avant ça, qu'est-ce qu'il a, moi je le connaissais pour Empire of the Sun, où il était enfant, de Spielberg. Tu sais.
American Psycho.
Bref, Equilibrium, moi, dans ma tête, c'était un espèce de sous-Matrix. Mm-hmm.
Mais c'est, excuse-moi, mais American Psycho, c'est avant Equilibrium. Là. Okay. Equilibrium, c'est en même temps. 2002, non, c'est avant. American Psycho, c'est avant, c'est en 2000.
OK.
Ben, c'est intéressant parce que c'est en même temps que The Matrix, justement, American Psycho, quoi qu'on y pense. Puis c'est un petit film de... C'est aussi un film d'apparence, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai.
Ouais.
C'est très populaire, justement, on se disait ça c'est quand on avait écouté Dark City. Toute cette mode-là, il y avait...
Cette époque-là, ouais, les dernières années avant l'an 2000.
OK, tous ceux qui ont pas vu...
Fin des années 90.
Tous ceux qui veulent pas être spoilés pour un film qu'ils ont peut-être pas vu, arrêtez d'écouter le podcast. Passé 5 secondes, je vais le nommer. The Usual Suspect était aussi un film de... Juste à dire ça.
Oh, oui.
C'est un film qu'est-ce que...
J'avertis mes étudiants, à chaque fois que je parle de ce film-là au début, c'est le premier cours de montage. Je le spoil le film carrément. Là.
Le premier cours. En fait, ce que tu devrais faire pour être gentil, ça veut dire premier cours, tu devrais dire aux gens, allez voir The Usual Suspect, on en parle au deuxième cours.
Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, dans un cours de cinéma, tu spoil, c'est sûr.
Puis il y a aussi...
Mais pourquoi tu parlais de Usual Suspect? Parce que c'était à la même époque.
Parce que c'est un film qui va dans la même formule de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
Ouais.
C'est comme de jouer avec le spectateur. The Matrix est un peu... Te vend le punch assez tôt, mais quand même, tu as un bon moment du film. Tu ne sais pas trop dans quoi tu t'en vas. T'sais. Follow the Bright Rabbit. Tu ne sais pas dans quoi et tout. Puis avant qu'il se réveille, ça prend quand même un certain temps. C'est le fun aussi du film de dire...
C'est-tu vraiment l'élu? Je veux dire, à un moment donné, il va voir l'oracle, puis l'oracle sort de là. Puis non, c'est pas l'élu. Puis on a l'impression dans leur dans leur sous-texte, entre les lignes, on lit que non, il n'est pas l'élu. Fait que peut-être que c'est juste. T'sais, Morpheus, il est fier. Là, en plus, tu vois Neo qui sort de la cuisine, puis là, il y a Morpheus de côté, la caméra le filme comme. Il y a un petit smirk, un petit sourire. T'sais. Fait que là, il dit non, ce qui t'a été dit, c'est juste à toi, tu ne dis pas à personne, ça t'appartient. Puis là, il met ses lunettes, puis il sort. c'est comme... OK.
Puis ça, c'est un moment un peu étrange, le truc avec l'oracle, parce qu'elle elle nous dégonfle un petit peu, mais on est comme... Mais elle dit jamais qu'il n'est pas l'élu, en fait. C'est lui qui le dit.
Elle dit « You got the gift », mais qu'est-ce qu'elle dit après? T'as l'air d'attendre pas quelque chose, quelque chose comme ça.
T'attends quelque chose, OK. Mais elle lui dit jamais « T'es pas l'élu », c'est lui qui dit « I'm not the one », tu sais.
C'est lui qui doute.
C'est lui qui doute.
Mais elle réfute pas.
Non, elle ne réveille pas non plus.
Elle laisse, tu sais, c'est comme...
Okay. Comme j'ai vraiment sneaky.
Ouais, mais ça.
On en a parlé vite tantôt, mais aussi un autre film du genre qui jouait sur le... Qu'est-ce qui est réalité ou pas, c'est Existence, de Cronenberg.
C'est la même époque aussi. Hein?
Oui,
en 99.
En 99 aussi, OK. Ouais. Ouais.
Donc, il y avait vraiment...
C'était vraiment le truc dans l'air du temps, quoi.
Puis... C'est-tu quoi? C'est-tu à cause de l'arrivée de l'Internet, le bug de l'an 2000, je ne sais pas trop quoi.
Remise en question.
Parce qu'aujourd'hui, on en a moins de films comme ça, ces espèces de films-là où est-ce que tu regardes le film puis tu es toujours en train de te dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, est-ce que je suis en train de faire
très ludique en même temps, les gens veulent jouer à ce jeu-là.
Mr. Robot joue un peu avec ça, Mr. Robot va être un peu là-dedans, tu sais.
Mais tu vois, dans Existence, on joue beaucoup avec l'idée de jeux vidéo aussi, beaucoup, là, plus que Matrix. On est vraiment dans un monde...
On est dans Second Life, dans Matrix.
Ouais, c'est ça, là. C'est vrai, c'est vraiment Second Life.
Second Life, wow!
C'est vrai!
Je ne sais pas si ça existe encore, c'est ça.
Ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de ça.
Second Life, il y a sûrement du monde qui joue encore à Second Life.
Ah, wow!
Ou qui habite encore Second Life.
Il y a peut-être du monde qui ont disparu, puis que ça, c'est ça, leur réalité, c'est Second Life. Ben oui, c'est ça l'idée, là. Tu sais, c'est l'idée du...
Ouais.
Que le monde... Puis c'est un petit peu aussi... Puis là, tu sais, on peut pas... Sérieusement, j'allais oublier d'en parler, mais on peut pas faire un épisode sur The Matrix sans parler d'effectivement de cette théorie-là, comme quoi...
The Matrix, pardon.
On peut pas parler de Matrix... Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit Terminator.
Excusez-moi. On va pas parler de Matrix sans parler de cette idée-là qui veut qu'on vive dans une simulation. Mm. C'est-à-dire, puis c'est sérieux, là, tu sais, parce que...
Ah oui, il y a des théories sérieuses.
Ben oui, c'est le principe que c'est tout simple. Quand tu y penses, t'es comme genre, oh shit, on est dans une simulation. Parce que dès que tu commences à y penser, t'es comme, mettons qu'il y a le vraiment. Qu'il y a le vraiment, tu sais, c'est rare. Dans l'univers, c'est super rare. C'est vraiment difficile, le vraiment. Le vraiment, c'est quelques constantes qui s'alignent. C'est genre la constante de Planck, la vitesse de la lumière, c'est la constante gravitationnelle. C'est que tout ça fit là, pour qu'on ne soit pas en train de tout s'écraser ou tout s'est parti. On est comme un mélange de constantes parfaites qui fait que toi puis moi, on n'est pas en train de comme exploser, okay. Là, tu sais. Okay. Puis qu'on peut avoir quelque chose comme la théorie de l'évolution de Darwin, comme, oh, tu sais, il y a des cellules, puis il y a des atomes, puis tu sais, c'est rare. OK, ça, c'est dur à voir. Quand ça arrive, c'est comme... Puis là, imagine que ce monde-là existe, puis qu'à un moment donné, arrive une espèce assez avancée technologiquement, puis qu'on est capable de faire une simulation parfaite. Donc, t'es capable de faire une simulation parfaite, t'as ton truc de logiciel, là, t'sais, ton Warner, ton Ubisoft, là, eux autres, ils ont développé la simulation parfaite. Puis les gens qui sont dans la... C'est tellement bon, t'sais, des intelligences artificielles, puis les gens qui sont dans la simulation, les êtres ou les trucs, le savent pas qu'ils sont dans une simulation parce que c'est une simulation parfaite, tu sais. Si t'es capable de faire ça une fois, OK, t'as pas de limite. Donc, n'importe quel étudiant secondaire peut faire sa simulation. Donc, si ça se trouve, on a un mauvais devoir d'un étudiant de secondaire 5 du vrai monde qui est en train de faire sa simulation pour passer son examen final.
Mais c'est drôle parce qu'en fait...
puis du coup, les simulations, c'est comme poup. Donc, les chances sont qu'il y a effectivement un vrai monde qui nous ressemble. Mais il y a plus de chances qu'on soit dans une simulation de ce vrai monde-là, pas un vrai monde.
Voilà. Mais c'est drôle, ça me fait penser à... l'avez-vous vu, The 13th Floor?
Non!
C'est une simulation dans une simulation, là, je spoil, là, mais c'est que c'est le film, on a, les personnages vont dans une simulation des années 60, 30 ans en arrière, puis pour eux, c'est une simulation vraiment, c'est magnifique, c'est génial, puis c'est une révolution tout ça. Puis finalement, on se rend compte que dans ce monde-là, où, dans lequel ils habitent eux-mêmes, c'est une simulation aussi.
Mais c'est ça, Existence aussi. Existence, c'est une simulation.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est comme, c'est abyssal, à un moment donné. Ouais. Ça devient... Donc, 13th Floor, c'est ça aussi.
Mais bref, voilà, l'idée de serait que... Pour ça, quand tu regardes The Matrix, c'est comme genre, oh, t'as un film, t'as
en tout cas, ça vient chercher. Ça vient chercher du monde, en tout cas. Hein,
peut-être que c'est ça. Peut-être que les conspirateurs de ce monde qui voient des signes comme quoi, puis tu sais, quand tu vois des déjà-vus, comme dans le petit moment de déjà-vu avec le chat qui passe deux fois...
Mais c'est drôle, parce que maintenant, en fait, on tout ce rapport-là au réel, là, il est tellement bafoué par l'arrivée des nouvelles technologies, l'image de synthèse et tout ça, la captation numérique. Je veux dire, The Matrix est sorti en 99, les technologies numériques en image de synthèse étaient relativement pas très avancées. Il y a eu, à l'époque, en photoréaliste, Jurassic Park, oui, ça a bien vieilli, certains moments ont bien vieilli, mais il y a eu un film qui a été réalisé, The Spirit Within, de Final Fantasy, The Spirit Within, qui se disait le premier film photoréaliste. Donc, réalisé en long métrage.
Je me rappelle avoir été halluciné quand j'ai vu ce film.
Ouais. Puis maintenant, tu regardes même les images, tu te demandes tout le temps. On est toujours dans un drôle de paradoxe où est-ce qu'on se demande qu'est-ce que je regarde, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Est-ce qu'elle a été retouchée, pas retouchée? Ouais. Ou, récemment, j'ai vu une image d'un robot qui se promène. C'est une image prise comme avec un téléphone cellulaire. Puis on a vu souvent ces robots-là qui marchent comme des chiens, là, qui marchent avec des chiens, mais des formes comme de chiens qui marchent puis qui courent. Là, c'est un robot. Puis la façon que la vidéo est présentée sur Facebook, évidemment, il ne faut pas croire tout ce que l'on voit sur Internet, mais quand même, là, tu regardes. Mais non!
Non!
Puis là, tu dis crème. Puis là, il y a des gens qui ont posté ça, puis qui ont partagé ça. Comme si, hey, c'est fou, là, où est-ce que ça va, la réalité? Mais non, c'était une image de synthèse qui se voulait finalement un personnage dans un film, court-métrage réalisé par Neil Blomkamp, celui qui a réalisé District 9, qui est un de mes chefs-d'œuvre des 30 dernières années.
Ouais,
avec Matrix, on m'avait dit, c'est quoi les 5 films, les 5 meilleurs films des 30 dernières années. District 9 se retrouverait dans ces 5-là.
Malheureusement, pas ces autres films, mais.
Non, pas ces autres films. On parle justement. Ces autres films.
Ces autres films. De quoi ça?
Mais il a fait des courts-métrages en animation numérique.
Mais District 9, c'était magnifique.
District 9, la façon que c'est fait, le concept même, était génial.
Les effets étaient assez groundbreaking. Là. Je me rappelle de sortir du film, puis avec ma blonde, on se regardait, on était là genre...
Ah, puis il y a du travail de mitaine là-dedans, là, la rotoscopie, là, c'est du travail de mitaine, là, pas comme, je veux dire, écoute, c'est fou, là, il est filmé lui-même, il a fait sa roto lui-même, tu sais, les extraterrestres ou les créatures sont pas...
Les prawns.
Les prawns.
D'accord. Ah, mais c'était tellement bien fait, là, on y croyait fou, quoi. Moi, je faisais vraiment...
Pour vrai,
donc, alors, plug, allez écouter
notre podcast. Bah oui, allez écouter notre podcast, c'est clair.
C'est dans nos premiers qu'on a fait, parce que justement, c'était un des films qu'on avait beaucoup aimé. On l'a couvert. Ah, en tout cas, donc ça nous a amené loin, cette discussion sur The Matrix.
Ouais, autre chose à dire, on n'a pas parlé de la musique, mais...
Moi, j'écoutais tout le temps le soundtrack.
Ouais, moi aussi.
C'était fou de l'époque, là, c'était des...
Ouais, la musique, ouais, techno-industrielle.
Moi, j'aimais ça, techno-industrielle, là.
Je la réécoute de temps en temps avec plaisir.
Je l'avoue que je l'ai réécouté très souvent. La bande sonore. Parce que c'était cool.
C'était un film cool, faut le dire. C'était un film cool.
C'était
un film cool et smart.
J'avais écrit un petit texte, un article, en tout cas, dans un bouquin sur les jeunes, puis tout ça. Puis il fallait que j'écrive un article sur justement comment est-ce que Matrix pouvait résonner chez les jeunes, justement. Parce que, écoute, c'est un personnage qui est rebelle. Une des premières images qu'on voit, Neo. Neo, c'est personnage qui est rebelle, tu sais, je veux dire, qui est un adolescent en recherche identitaire complètement, tu sais, puis qui est en recherche identitaire et sexuelle aussi, tu sais, je veux dire, il se cherche aussi, tu sais, ben c'est vrai, sexuelle dans le sens que...
Il y a un petit moment cute quand elle lui dit « There's a reason why she I know why she likes you », puis
oui, c'est ça!
Not too bright,
though!
C'est
pas ta cigarette!
C'est
génial,
ce bout-là! C'est ce moment-là! Not too bright!
C'est génial, cette actrice-là, comment est-ce qu'elle a ce moment-là? Not too bright!
Des bons personnages secondaires.
Puis ben écoute, c'est ça. Puis à la fin,
c'est quoi le nom de cette actrice?
Gloria, quelque chose.
Je m'en rappelle pas.
Ouais, Gloria, quelque chose. Je m'en rappelle plus de son nom de famille.
Elle nous a bien eu dans ce film.
Puis c'est elle, mais ils ont rattrapé la chose parce qu'elle est décédée entre le 2 et le 3. Puis j'ai tellement trouvé ça dommage. Je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été là?
Gloria Foster.
Foster, ouais. Puis bon, c'était un nouveau personnage.
Ils ont pris
une nouvelle actrice. Mais une actrice qui la connaissait très bien parce qu'ils jouaient au théâtre ensemble, tout ça. Donc, ils se connaissaient. Elle a essayé de lui rendre hommage. En jouant, tu sais.
Ouais.
Un petit peu comme elle, mais tu sais, ils ont justifié la chose, tu sais, évidemment, narrativement, là, comme quoi que c'est pas le même visage, mais.
Ouais. C'est la même oracle.
Ouais, le même oracle.
Ouais. C'est le Doctor Who de l'univers de
Mais bref, pour en venir, donc pour toi, Neo, c'est vraiment le personnage de l'adolescent, parce que c'est vrai qu'au début, il y a ce moment-là où il se fait gronder par son boss. Puis
Puis par ça, il regarde la vitre à côté, tu sais, avec les
liens.
Puis t'as toujours le son qui est OK.
Ils écoutent
pas. Puis là, après ça, ils se retrouvent devant une télé, un écran d'ordinateur vide.
C'est vraiment au début tu sais pas ce que t'es en train de voir, quoi.
Non, mais pas du tout. Puis tu sais, ça finit à la fin, évidemment il s'est découvert, évidemment
c'est
réalisé, puis à la fin le système,
c'est le voyage initiatique un peu.
C'est le voyage initiatique,
c'est le personnage qui sort de son univers pour aller comme dans... Puis c'est littéralement il sort de son univers pour sortir,
ben bon, littéralement dans le film,
tu sais, il est comme c'est dégueulasse d'ailleurs ce moment-là, là, où est-ce qu'il arrache tout, puis tu sais, comme il est comme oh!
Ah oui, caca, moi, c'est ses câbles et tout ça, là. Puis à la fin, c'est ce moment-là où ce que tu dis, OK, là, c'est le moment critique. C'est pas le moment critique, mais c'est le moment.
Il devient un homme.
Il devient un homme, puis c'est quoi, comment est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il dit ça à la fin? Non, je me rappelle plus, mais tu sais, il parle au téléphone, il parle à la matrice, tu sais. Il leur dit, bon, je vais leur montrer quelque chose que vous voulez pas qu'ils voient et tout ça. Puis où est-ce qu'on va maintenant? Mais ça ne dépend que de vous. Puis il raccroche. Là, t'as la musique cool. Puis il met ses lunettes. Pas encore plus cool. Puis là, il devient Superman.
Il y a vraiment un côté rock'n'roll.
Le truc de la fin, là, où il devient Superman. La première fois que j'ai vu le film, j'étais là.
What?
Juste ce moment-là, je ne l'ai pas aimé. C'était comme...
Ah oui?
Pourquoi
ajouter ça à la fin?
Pourquoi il s'envole à la fin? Non. J'aimais pas ça.
Ouais, c'est pas... Moi, ça m'a... Tu vois que c'était une petite touche, là, tu sais, parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y en ait un autre après, tu sais, de toute façon, tu sais. Ouais. Fait que là, c'était vraiment les libertés sont infinies, tu sais.
Je l'ai accepté par la suite, mais sur le moment, j'étais comme...
T'as réussi à accepter, passer par-dessus.
Mais c'est sûr que quand tu vois le deuxième, puis il vole vraiment, puis tout, mais je trouvais que c'était une belle métaphore à la fin, tu sais, qu'il peut, tu sais, s'envoler.
Il fait n'importe quoi, là.
Se déchaîner, tu sais, se déchaîne.
Il est libéré du système, en fait. C'est comme une image de...
C'est ça, tu vois l'écran, puis le système, il arrête complètement, mais c'est le système failure, c'est la matrice qui arrête, c'est tout le système social, tu sais, finalement, on peut, tu sais, comme pousser la réflexion.
C'est le fantasme des années 90, parce que les années 90, c'est toujours le fantasme de critiquer le système, de remettre en question le système.
C'est pas mal un fantasme perpétuel, en ce moment.
Oui, non, c'est vrai, mais on dirait qu'en ce moment, il y a comme un essoufflement de genre, le système, il gagne sur nous, puis on peut rien faire, tu sais, comme une sorte tu sais, comme quoi Trump a été élu, puis les gens qui ont voté pour lui, c'est les gens qui ont vu The Matrix. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose de décevant.
Non, je pense pas, non.
Ben, c'est la génération.
Pas forcément les gens qui ont vu le film.
Mais dans le sens que. Je sais pas. Non, je trouve qu'il y avait quelque chose dans les années 90. Il y avait quelque chose dans le cinéma des années. Non, mais il y avait quelque chose dans le cinéma des années 90. Dans les années 90, tu sais, c'était Fight Club aussi. Là, c'était là. Il me semble que dans les années 80, c'était pas comme ça. T'as eu comme des époques, t'as eu les années 70 avec des films un peu comme. Je sais pas moi, le truc de la guerre du Vietnam, tous les films sur Apocalypse Nord, Apocalypse Now, c'est tout le style de cinéma des années 70 qui est un cinéma très d'auteur, puis le cinéma américain des années 70 c'était comme un cinéma presque européen là, qui a jamais, tu sais, ok, oui, t'as eu Star Wars à la fin,
Hollywood là,
c'est
un cinéma qui était très noir aussi,
oui, mais on était loin, c'est Raging Bull, t'étais loin d'un cinéma peplum des années 50, puis t'étais loin de ce qui venait dans les années 80 à cause de Star Wars qu'on aime, mais qui a quand même amené quelque chose un petit peu genre on sort de la réalité puis on s'évade puis on s'en va dans le film d'action populaire.
Les années 70, c'était une décennie qui était extrêmement noire, comme je disais tout à l'heure, avec Star Wars qui est arrivé tout d'un coup, qui devenait, présentait des personnages qui étaient des héros puis qui étaient winners pour une fois. Je veux dire, c'était à l'époque de la crise du pétrole, la guerre du Vietnam.
Exactement.
C'était juste des films qui étaient avec des.
C'était dur.
Même
le premier Rocky avait quelque chose de. Non, mais même le premier Rocky avait quelque chose d'intense. Là, c'était comme.
Même Rocky, après Star Wars, puis c'était un gagnant aussi. Rocky,
c'est vrai.
C'était un winner. C'était plus. Puis à la fin, tu sais.
C'est l'histoire d'un winner qui paradoxalement ne gagne pas à la fin.
Donc Star Wars.
Qui a fait son chemin.
Donc, on est d'accord qu'à partir de Star Wars, c'est devenu des winners.
Spoiler
mais avant,
pour Rocky.
Mais t'as aussi les parrains. Les parrains, c'est pas un truc édifiant du tout. Là.
Non, il y en a plein d'exemples comme ça.
Donc,
French Connection, Coppola, Taxi Driver.
Ah ouais, non, mais tu peux y aller. Hein, c'est que du gritty sombre.
C'est ça. Le truc avec le. Voyons, le.
Les Américains avaient hâte de se représenter des personnages qui gagnaient.
The Deer Hunter, aussi, c'est les années 70, aussi, c'est fucking dur, là. Donc, bref, cette espèce de période-là, vraiment sombre. Puis après ça, des années 80, c'est comme tout d'un coup, arrive les années 90.
La décennie du fluo.
Ouais. Puis arrive les années 90, puis t'as des films qui rentrent. Tu sais, que Pulp Fiction, ça rentre dans le dash d'une certaine façon, là. Tu sais, c'est pas. On est. Tu sais, Pulp Fiction, là, c'est pas. Les films aussi de Wild at Heart, voyons.
Twin Peaks et compagnie.
David Lynch,
merci.
Donc, t'as une époque de 90, c'est David Lynch, c'est Tarantino, c'est Fight Club, tu sais. Donc, il y a comme une sorte de montée d'une espèce de contestation du système. Ça vient par vague et tout. Puis je pense que The Matrix fait un peu partie de ça. Là. Ouais. Beaucoup, même.
Il clôt cette décennie-là.
Oui, il clôt cette décennie-là, puis c'est clair.
C'est totalement drôle parce qu'écoute, je disais tout à l'heure, entre parenthèses, mais Fight Club, ça se ferait plus, ça, maintenant. Là.
Ben, Fight Club, c'est une anomalie.
C'est une anomalie.
Même à l'époque, même dans le contexte des années 90.
Oui, écoute, à la fin, ça finisse avec des buildings qui explosent. Ça fait oublier ça, là, maintenant. Ça, on verrait plus ça.
C'est extraordinaire, ce film-là.
C'est génial, ce film-là. Il fait partie aussi de ma liste. Là,
c'est longtemps que je ne l'ai pas vu, ce film. Je me remets dedans.
C'est un plaisir de revoir ce film-là, parce que quand tu le revois, tu te dis. Calisse que c'est bon.
Ça vient d'un autre qui joue avec la réalité aussi, parce qu'on pense tout le long.
Mais c'est la même époque. C'est quand Fight Club, c'est quand. Mais c'est la même époque.
Ouais, c'est la même époque qu'on avait regardé.
C'est la même chose.
C'est la même, pattern. Même on se rend compte à la fin que.
Je te dis, dans les années 90, fin des années 90, il y avait une obsession de questionner qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était réel. C'est comme des personnages psychotiques. Puis depuis, tu as eu quelques trucs.
99.
99. C'est la même année que The Matrix.
On carburait à. Je ne vis pas dans la réalité.
C'est vrai que c'est pas de convenance, c'est dans ces années-là aussi. C'est Caroline. Ben oui, c'est bien trop vrai.
Puis qu'est-ce qu'on a après? Ben, on a une espèce de claque en pleine gueule de réalité, c'est-à-dire le 11 septembre, tu sais, que c'est comme genre... Ouais. Ça a changé. Parce qu'après, t'en as plus.
Ouais, non,
comme ça, t'as eu Shutter Island, qui est un peu dans ce style-là.
Ouais, c'est vrai.
Psychotique. Puis c'était comme... Moi, j'ai bien aimé parce que je suis une maniaque de Scorsese. Il ferait vraiment du caca, puis j'aimerais ça. Mais j'ai pas aimé Gangs of New York. Il y a quand même des limites. Mais bon, tu sais, à part...
Il y a des bonnes choses cette année-là. Hein. Il y a eu... Excusez-moi, je vous interromps. Magnolia.
Magnolia.
Wow, ouais, Office Space. Ben
oui.
Sixth Sense.
Oh, yeah. Oui, Sixth Sense, en est un autre.
Star Wars épisode 1. Eyes Wide Shut.
Mais ça aussi, c'est on joue avec la réalité dans l'épisode 1 de Phantom Menace.
Ben oui, c'est pas vrai. Le film est pas vrai. Quand tu y penses, c'est comme faut lire entre les lignes. C'est comme genre... Tu sais, il faut que tu regardes le film en disant que tout ce film-là n'est pas vrai. Il n'a pas vraiment existé. En fait, il n'a pas eu lieu. Ouais. Ah, c'est un cauchemar qu'on a eu.
On en reparlera.
Oui, on en reparlera.
Il y a des bonnes affaires.
Genre, quand il tue Jaja, il tue pas.
Non,
j'ai juste fantasmé à la fin du film que quelqu'un venait le...
Le combat de Obi-Wan et Darth Maul, ouais.
C'est
superbe.
À la fin, c'est un moment d'anthologie à la fin, pour vrai, je trouve, de Phantom Menace. Mais bon, on digresse. Mais écoute, si jamais je reviens pour en parler, je vais faire une confidence par rapport à ce film. Le nombre de fois que je l'ai vu. Je ne dirai pas ici.
Okay, on attend. On travaille.
Ouais, je veux savoir. Bon, il faut qu'on programme cet épisode.
Ça serait une façon très étrange et paradoxale de commencer à parler de Star Wars en parlant de
Phantom Menace.
En faisant un épisode 1. Mais ça serait logique. On va commencer par l'épisode 1.
Le truc que tout bon fan de Star Wars ne fait pas.
Il faudrait parler par trilogie.
Ouais, par trilogie.
Oui,
ouais,
parce qu'on ne veut pas se faire un épisode sur le 1, sur le 2, sur le 3.
Surtout
on
pas.
Va toutes les passer ensemble. On respire.
Ouais.
Et on passe à
la
fin.
Qu'on trouve la copie de la version condensée des trois, là, que je ne sais plus qui a.
Ah oui, il y a quelqu'un qui avait fait un remontage.
Moi, je pense sur YouTube.
De Phantom Edit, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oui, puis il paraît que c'est pas pire.
Ouais, ben, je sais, c'est ça.
Il paraît que c'est meilleur que le.
Ça va chercher la substance utile finalement et se débarrasse de toute la merde, quoi. Mais bref. Donc cette année-là, il y a eu Eyes Wide Shut aussi.
Eyes Wide Shut, qui est aussi un film
qui était Panic Diable, Boondock Saints,
Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, ça j'aimais bien.
Ça dure combien de temps votre émission?
Talented Miss Ripley. Oh, on n'a pas de limite, mais c'est vrai que là ça commence à faire long. Ça on parle depuis.
Ça fait une heure et demie.
Plus d'une heure et demie, ouais.
Ouais, donc là on va arrêter.
Oh, Galaxy Quest, ça c'était drôle. Tu là, j'arrête pas de dire qu'il faut qu'on le fasse. Galaxy Quest.
Galaxy Quest, c'était comique, mais c'est cute.
Bref. Pas...
Mais ça voilà. Parle des fans, moi je l'ai vu un petit bout, je trouvais ça très drôle.
Tu l'as pas vu en entier?
J'ai pas vu au complet.
Il est très drôle.
C'est plus Star Trek.
J'ai adoré ce film. Oui,
c'est
clairement du Star Trek.
Oui,
c'est très drôle.
J'avoue que le truc drôle, c'est le personnage du figurant qui a peur qu'il va mourir parce qu'il est tel figurant.
C'est
ça,
c'est grave. Sigourney Weaver est parfaite. C'est vraiment drôle. Moi j'ai adoré ce film. Anyway.
Mais donc, une observation intéressante qu'en 99 en particulier, et dans les fin des années 90, il y avait vraiment cette obsession-là pour qu'est-ce qui est réel. On revient à X-Files, qui nous amenait « The truth is out there ». Et puis après ça, on est tombé dans le 11 septembre. Et ce qui venait après le 11 septembre, qui, dans ma théorie, aurait tué cette espèce d'obsession-là du film « Mais c'est quoi la vérité et tout? » Ben, c'est que tous les conspirationnistes ont comme monté en épingle leur théorie de la conspiration. Puis je pense que les créatifs ont commencé à dire « Ouais, c'est vrai que c'est un peu niaiseux tout ça. » Puis ça les a un peu dégonflés, tu sais. Parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu niaiseux dans les obsessions de la conspiration, dont j'ai parlé avec quelqu'un qu'on a déjà eu ici cette semaine, puis on s'est un peu obstiné à savoir sur les théories de la conspiration. Puis aujourd'hui, il y a quelque chose de vraiment, je dirais, un peu... comme quétaine, là, tu sais, ça fait penser à l'Amérique. En fait, les gens qui veulent pas régler les problèmes, plutôt que de regarder les vrais problèmes, ils s'inventent des théories de la conspiration. Donc, c'est pour ça que ces films-là qu'on a beaucoup aimés les années 90, c'est comme l'histoire du sable mouvant, tu sais. Il y a une époque où que le sable mouvant, c'est comme dans Laurence Arabia, il y a un sable mouvant, OK? Puis c'est un grand film. Puis à un moment donné, c'est comme devenu une espèce de trope, que tu voyais ça juste dans une espèce de truc hyper quétaine, parce que t'as une jolie fille qui est comprise. Dans un sable mouvant, puis c'est comme le truc qui arrive tout le temps. Puis à un moment donné, il n'y a plus de sable mouvant, ça n'existe plus. C'est fini. Donc, c'est comme des espèces de modes créatifs. Puis cette mode-là de questionner la réalité, ben, elle a comme fait son temps. T'sais. Mais bon, on vient de parler probablement du meilleur
Du meilleur exemple.
Ouais, du meilleur exemple. Voilà. Donc voilà.
Bon, ben, c'est bien. On a bouclé la boucle.
Je voulais avoir un long mot de la fin. Tu décideras bon, si bien. Tu le gardes au montage.
Donc, bien sûr, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, ben, vous revoyez-le parce que c'est toujours aussi bien.
Puis il va falloir peut-être quand même qu'on parle du 2
qu'on,
et du
qu'on parle
3.
Du 2 et du 3, ouais. On va peut-être se programmer ça, un de ces 4.
Ouais, avant.
Ça pourrait être nécessaire.
Ça pourrait être nécessaire.
De se faire.
De parler du 2 et du 3 en même temps.
Du ouais, 2 et 3 en même temps. Ouais.
Mais en fait, il y a tout l'univers aussi. Là. Il y a tous les Animatrix, les jeux vidéo. Parce que bon, les jeux vidéo, les deux jeux vidéo, il y en a un, c'est Enter the Matrix, puis il y en a un autre, c'est Neo, je pense. Le premier Enter the Matrix, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est. Quand ils ont tourné le 2 et le 3, le back-à-back, là, ils ont tourné des scènes, des moments pour le jeu Enter the Matrix.
Ouais,
puis quand on joue au jeu Enter the Matrix, on joue Niobe. Tu l'as fait?
Ouais.
On joue Niobe et son acolyte, là, je ne me rappelle plus, là, un Asiatique. Là, et puis, il y a des moments de pause, de gameplay, là, graphique, où est-ce que pouf, il y a une scène de film, puis c'est vraiment
t'as
les acteurs ouais. Puis qu'ils ont tourné un moment. Donc,
Jada Pinkett et l'autre.
C'est vraiment comme un autre film de 45 minutes.
Qu'est-ce qu'on devrait se faire? On devrait se jouer puis s'enregistrer en même temps en parlant ça du 2 et du 3 pendant qu'on est en train de jouer.
Ça serait drôle.
C'est quoi le
wow, c'était sur Steam, quoi? Moi, j'avais joué sur PlayStation 2. J'avais joué
Twitch.
Ah, sur Twitch, ouais.
On se filme sur Twitch.
Et sur la 2, je pense que j'ai encore PS2 chez nous.
En train de faire.
J'ai plus de PS2. J'étais encore en Suisse à cette époque.
Tu veux pas la jouer sur PS3 ou PS4?
Non,
il faut vraiment. Tu peux pas l'avoir sur Internet, tu sais, dans voyant sur
peut-être qu'il existe.
Non, mais la PS2, c'est quelqu'un de PS2. Ouais. Moi, j'en ai une PS2. Donc
ça existe. On peut trouver
ça. Existe encore.
OK, il y a du monde qui a
ça.
Parfait. On va en prendre.
Puis ça, c'était vraiment génial parce que tu pouvais vraiment contrôler les moments de bullet time, tu sais, puis être cool comme les personnages.
Il était fun, ce jeu-là. Il était assez fun.
Quand tu es arrivé à manipuler le bullet time, il y avait des beaux moments d'extase, d'action.
Non, je me rappelle avoir trouvé ça assez cool, ce jeu-là. L'autre, je ne l'ai pas joué, mais celui-là, oui.
Bon, alors.
Bien. Marc, est-ce que
vitrine Internet?
Est-ce que est-ce qu'on peut, si tout à coup on veut te contacter?
Une empreinte numérique. Oui, je suis sur Facebook. Marc Joly Trédillon Corcoran. Et la page du documentaire, Shameless Plug, qui est Que le fan soit avec toi, le titre sur ce documentaire.
Que le fan soit avec
que
toi.
Que le fan soit avec toi.
Que
le fan soit avec toi.
Que le fan soit avec toi, c'est un autre documentaire.
On
parle de l'évolution du moteur à hélice.
Oui, que le fan soit avec toi, May the fan be with you aussi. Bon, c'est ensemble. Donc, la page du film. On est même en campagne de sociofinancement en ce moment. Tu sais, Shameless Plug.
Non, vas-y.
Ah,
vraiment,
tous
les moyens sont en campagne de
sociofinancement. Tout le monde qui a entendu le podcast, il va falloir qu'on se dépêche. Ça vous est.
C'est sur Indiegogo. Jusqu'à la mi-décembre, là, je dois avouer que.
De mettre le truc en ligne.
Jusqu'à 19 décembre.
Faites une bonne action, tous nos fans. On ne vous demande jamais d'argent ou d'aide. Allez donner un petit peu d'argent.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, c'est pas juste un don. En fait, c'est que c'est possible de précommander le film pour 25$. Donc, quand le film sort, c'est pas 25$. C'est pas comme si tu donnes l'argent. Tu as le film quand il va sortir. Juste qu'il faut que tu fasses confiance. À Indiegogo, de toute façon, c'est une belle plateforme qui est quand même bien, qui est safe. Là. Donc, nous, c'est comptabilisé. Puis quand le film sort, on l'envoie à tout le monde.
Donc, cool, très bien. Bah, super. Indiegogo, donc,
on va vraiment mettre un
que le fan soit avec toi.
On va le mettre sur Facebook en attendant.
Cool.
Que le fan soit avec vous ou
que le fan soit avec toi.
Que le fan soit avec toi.
Que la force soit avec toi, que le fan soit avec toi.
Ouais.
Jeu de mots. Facile à retenir.
Exact.
Pas mal.
Donc, Marie-Louise, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant?
Sur Facebook.
Sur Facebook, comme d'habitude. Moi, comme d'habitude, je suis sur Twitter, Steadynik. Et pour vous abonner au podcast, rendez-vous sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes. Et n'oubliez pas de nous laisser quelques petites étoiles au passage. C'est toujours très apprécié. Écoutez-nous sur Balado Québec, Pod Québec, RZO Web. Suivez-nous sur Twitter, @24quarks, toujours avec un S. Et puis, venez jaser sur notre page Facebook ou encore par courriel à 24quarks@gmail.com. La prochaine fois, on se retrouve pour parler de Starship Troopers de Paul Verhoeven. Je n'ai plus l'année en tête, mais c'est pas grave, on va en parler la prochaine fois. Donc, réjouissez-vous, revoyez le film en attendant, c'est très chouette à revoir d'ailleurs.
Oui, très amusant.
On en a fait allusion tantôt, c'est vrai. On se quitte avec la bande-annonce, on vous remercie de votre fidélité et on vous retrouve très bientôt. Bye bye.
In every age, There is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all.
Hey, kid, what's going on?
War! We're going to war!
Now, the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world.
We are a generation commanded by fate to defend humankind.
Everyone fights, no one quits.
We are going in with first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than two legs. You get me?
We get you, sir!
But they will face an enemy more devastating than any ever imagined.
Incoming!
Mayday, mayday, this is Roughneck 2-0.
We're under attack, sir. We need retrieval now.
Someone made a damn mistake.
No!
The bugs laid a trap for us, didn't they?
TriStar Pictures takes you to the front lines of the next frontier.
Kill them all!
Starship Troopers.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.